Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ancora Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Cacca in percussione, Sciaccalli ingresso in aria ancora, Cacca, davanti al portiere, Cacca, rete, 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 Cacca.
Pallone che arriva, Trezeguet, Toni! Pirlo ancora, Pirlo di tecco, tiro, grosso, grosso, gol di grosso. Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci provo con il testo,
e la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 16e épisode du podcast Calcio et Pépé. Comme chaque semaine, je suis avec Guillaume Maillard-Passini, salut Guillaume.
Salut Johan, salut à tous.
Et cette semaine, on a donc un invité, Christophe Kuchli. Salut Christophe.
Bonjour messieurs, salut Johan.
Alors Christophe, tu es donc journaliste, on peut te retrouver notamment sur les cahiers du foot, où tu débriefes chaque semaine dans une séquence de jeux, les matchs que tu regardes au niveau européen chaque week-end. On te retrouve aussi également dans le podcast Vue du banc, un podcast oui. Qui parle de jeux. Un JEU évidemment, et qui analyse et décortique le football d'un point de vue, allez on va dire grossièrement tactique, mais qui parle essentiellement du jeu, des entraîneurs, de ce qu'ils mettent en place, de ce qu'ils cherchent à faire sur le terrain et comment les joueurs répondent à tout cela et aux problématiques en cours de match. Évidemment un podcast qu'on recommande largement. Vous parlez notamment du football italien, mais pas que. Vous parlez de la Ligue 1, des 5 grands championnats européens de manière générale, et en gros, il y a un épisode par semaine, c'est ça ?
Ouais, un épisode par semaine et deux les semaines de Ligue des Champions où on fait un débrief dès le jeudi des matchs du milieu de semaine.
Et vous avez du travail sur les clubs français qui sont cette année en Coupe d'Europe de remarquables performances.
C'est un peu redondant d'une semaine sur l'autre ce qu'on dit sur eux, malheureusement. Mais...
Alors, on va donc parler de jeu aujourd'hui, évidemment, comme on a l'habitude de le faire. On va dérouler le sommaire rapidement. On commencera par ce qu'a apporté Ancelotti au Napoli depuis le début de la saison. On verra ensuite les limites de l'AC Milan depuis août. On parlera de deux clubs un petit peu moins connus, un petit peu moins exposés médiatiquement. Sassuolo, pourquoi ce club séduit les observateurs aujourd'hui. et de l'Atalanta. On avait commencé à en parler dans le podcast précédent avec Guillaume, et notamment de l'aspect défensif avec Palomino et Mancini. Mais pourquoi Gasperini réussit à faire de très bonnes choses avec l'Atalanta depuis maintenant 2 saisons et demie. On reviendra sur le match de la Nazionale qui a fait un 0-0 décevant sur le plan du résultat, mais il y a eu des séquences quand même très intéressantes sur le plan du jeu. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu cette Italie-là à ce niveau-là. Et puis on fera comme d'habitude le pêle-mêle footballistique, le Dolce à la fin, où on essaiera de caser plusieurs remarques et observations sur d'autres clubs comme la Roma, la Juve et le Torino. Guillaume, tu reviendras sur les déclarations de Sarri aujourd'hui,
ouais,
dans la presse italienne. Et puis on fera un petit point sur les 3 joueurs qui nous ont marqué positivement depuis le début de la saison en Serie A. Alors messieurs, on commence donc par Carlo Ancelotti au Napoli. Alors toi, du coup Christophe, vous aviez parlé des entraîneurs révolutionnaires dans un bouquin aussi.
Oui.
Donc les entraîneurs, c'est évidemment un sujet qui t'intéresse beaucoup. Et ce que tu as aimé dans ce que Ancelotti a apporté au Napoli, alors déjà, de mémoire, il me semble que t'appréciais beaucoup ce qu'avait fait Sarri en termes,
oui,
de jeu et ce qu'il proposait à travers son équipe. Et donc là, ce que tu as apprécié, c'est la flexibilité tactique qu'a amené Ancelotti à cette équipe qui avait une manière de jouer et une seule.
Ouais, c'est ça. En fait, alors instinctivement, j'ai tendance, et au-delà du fait d'avoir coécrit ce livre, j'aime bien les entraîneurs qui vont au bout de leur idée, alors qu'elles soient, je préfère évidemment les entraîneurs qui sont plutôt protagonistes et qui aiment tenir le ballon, presser haut, etc. Mais un Simeone, par exemple, me dérange pas parce que ce qu'il fait est assez cohérent. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu des réserves sur le travail d'Ancelotti. Alors, réserve sur le travail d'Ancelotti, ça reste un bien grand mot. Mais disons, j'ai toujours trouvé qu'il allait parfois pas assez au bout de son idée et que à vouloir un peu tout faire, et ça c'était très bon en Coupe européenne, mais ça pouvait manquer un peu d'une identité forte en championnat. Et j'attendais de voir ce qu'il allait faire à Naples, parce que pour le coup je trouvais qu'au Bayern, en essayant d'apporter plus que ce que faisait Guardiola, il avait quand même enlevé une partie de l'identité qui avait été amenée avant lui. Et là, je trouve qu'à Naples, il a réussi à la fois à intégrer le turnover, qui était quand même l'un des gros problèmes de Sarri, qui s'appuyait tellement sur une base que du coup, il n'osait pas changer. Et il a en plus réussi à apporter un nouveau système tactique, qu'il arrive en plus à changer d'un match sur l'autre. Alors, parce qu'on va parler du 4-4-2, mais en Ligue des Champions, les relances à 3, etc., tu peux changer d'un match sur l'autre selon la manière dont tu veux aborder un match face à un adversaire. Et je trouve vraiment que son 4-4-2, à la fois, il permet notamment de mettre Insigne dans l'axe et d'apporter quelque chose qui, en plus, du coup, sert à la sélection italienne. Mais ça, tu ne trahis pas non plus ce qui a été fait avec Sarri. Tu gardes la capacité de relancer sous pression. Tu gardes cette capacité à presser haut. Et du coup, je ne sais pas si Naples fera une meilleure saison en termes de points que l'an dernier. J'ai peur que, comme les années précédentes, ça termine deuxième parce que la Juventus est intouchable. Mais en tout cas, je trouve que Ancelotti continue à faire grandir cette équipe de Naples.
Alors Guillaume, une des choses, puisque Christophe l'a évoqué, c'est la défense à 3, ou enfin en tout cas le, oui, passage à 3 sur certaines séquences, et notamment en phase de possession. On l'a vu la première fois lors du match contre Liverpool de mémoire en Ligue des Champions, à domicile, oui, où ils avaient réussi à battre cette équipe de Liverpool un peu à la surprise générale, et on l'a revu par séquence ensuite contre le PSG, et c'est une des choses qui avait été notée dès le lendemain par les observateurs et surtout par la presse italienne.
Bah exactement, et surtout la trouvaille d'Ancelotti au-delà de Insigne numéro 9, c'est aussi Maximovic à droite, parce que autant Maximovic l'année dernière, comme le disait bien Christophe, c'est vrai que malheureusement, avec Sarri, le jeu était exceptionnel, mais c'est vrai qu'il comptait sur 11, 12 joueurs. Et c'est vrai que les autres, on les avait un peu oubliés. Et là, quand tu vois Ancelotti, ce qu'il a fait de Maximovic, qui est quand même un bon joueur, tu te rappelles, au Torino, c'était un bon défenseur. Et là, il passe quand même de défenseur axial à latéral droit. Et on se rappelle que contre Liverpool, c'est quasiment là qu'il gagne le match. Parce que c'est un bon choix, c'est un choix qui paye. Et c'est vrai que dans la relance, avec ses 3 axes, avec Maximovic qui se décale un peu, c'est vrai que ça avait fait la différence et contre Liverpool et contre le PSG. Donc, pour le coup, Ancelotti, comme l'a souligné Christophe, c'est vrai que sa flexibilité tactique est très importante. Ça change du dogmatisme de Sarri qu'on avait l'année dernière. Voilà, on adore Sarri, mais c'est vrai qu'au mois de mars, on se rappelle, les joueurs étaient quasiment cramés. Parce que voilà, quand tu comptes sur un groupe de 12, 13 joueurs, ça devient compliqué. Mais c'est vrai que la flexibilité tactique d'Ancelotti, cette saison pour le Napoli, a tout changé. Et pour le moment, ça paye. Et comme dit Christophe, c'est vrai qu'il n'a pas dénaturé non plus le Napoli de Sarri. Il a gardé les bonnes choses. Mais c'est vrai qu'il a apporté voilà, cette tactique, cette aura qu'il a, cette expérience. Et là, le mélange de Sarri et Ancelotti, pour le moment, ça fait quelque chose de très beau pour le Napoli.
Alors, Christophe, sur le match de Liverpool, je ne sais pas si tu l'avais vu, ce match de Ligue des Champions, l'idée de cette défense à 3 en phase de possession, c'était quoi? C'était de contourner rapidement le trident et éviter le pressing des 3 de devant de Liverpool et de d'écarter rapidement sur les côtés du coup.
Ouais, c'était un peu un qui tout double en te disant 3 contre 3, c'est sûr que si la première relance est interceptée, c'est embêtant, mais si tu casses ce pressing là, ensuite t'as un 7 contre 7 à jouer sur le reste du terrain. Et du coup, voilà, comme je le disais, tu peux c'est un risque qui est calculé, c'est plus facile de faire ça avec les relanceurs qu'il y a à Naples que si tu faisais ça avec Frosinone. Mais oui, c'est je pense que c'était uniquement prévu pour le match contre Liverpool parce qu'il avait étudié le travail défensif des trois attaquants qui est quand même c'est peut-être les trois attaquants qui courent le plus qui pressent le plus en Europe. Et une fois que tu arrivais à casser ce pressing là avec des joueurs qui proposaient des solutions notamment au cœur du jeu, tu pouvais ensuite lancer des attaques et finalement tu coupais, je vais pas dire tout ce qui fait l'identité de Liverpool, parce que Liverpool sait faire d'autres choses, mais déjà tu gagnais cette bataille tactique là, et ensuite il a gardé ça face au PSG sur le match aller. Je sais pas si c'est quelque chose qui est viable face à toutes les attaques à 3, parce que toutes les attaques à 3 ne vont pas forcément presser très haut, mais en tout cas sur ce match là ça a fonctionné, et il y a aucun moment où tu t'es dit il y a véritablement une prise de risque. On voyait surtout le fait que les circuits de passe étaient assez bons avec ce système.
Alors parmi les on va dire, on va pas dire parler d'invention, mais on va dire les innovations d'Ancelotti à Naples cette saison. Donc on a parlé de ce coup de poker à 3 sur deux matchs de Ligue des Champions. Une chose qui fait beaucoup parler et moi qui m'intéresse beaucoup, c'est le replacement d'Amzik plus bas sur le terrain et en distributeur de ballon devant la défense. Alors au début c'était dans un milieu à 3 et puis ça s'est transformé assez rapidement au passage en 4-4-2 à un double pivot avec Alan. Comment tu le vois, toi, Amzik? Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de réserves sur Amzik.
Des gros doutes.
Voilà, parce que je trouve déjà qu'il a pas la qualité technique pour faire jouer les autres. Il est plus, je l'aime beaucoup plus haut sur le terrain où il peut être plus facilement à la finition et plus proche de la surface. Quand il est plus bas, je trouve qu'il a pas cette qualité et cette vitesse d'exécution qui permettent d'accélérer le jeu sur un mouvement. Et puis, sur les phases de non-possession, je le trouve très exposé. Et du coup, Alan doit faire un gros, gros boulot au milieu de terrain.
Moi, là où ça me dérange le plus, c'est quand tu n'as pas le ballon. Heureusement, Naples l'a quand même, je vais pas dire les deux tiers du temps, mais là, assez souvent, donc forcément, tu le vois un petit peu moins. Avec le ballon, j'ai aussi des réserves comme toi, seulement si tu mets Zielinski ou Fabian Ruiz côté gauche, oui. T'as quand même un deuxième milieu qui peut, du coup, prendre un peu en charge et se recentrer, donc ça dilue un peu la responsabilité qu'il aurait, alors que quand tu joues en 4-3-3, c'est lui qui doit lancer à peu près toutes les actions. Donc, si t'as un autre milieu excentré, ça me dérange pas forcément. Après, c'est vrai que sans le ballon, tant qu'Alan est monstrueux et peut faire le boulot de deux personnes, ça va pas se voir. Si Alan a un mauvais match, je pense plus sur le côté physique où il peut pas assurer ça, c'est sûr que ça risque de se voir que Amzik, il fait plus que son âge en termes d'impact physique qu'il peut mettre sur la durée d'un match.
Alors, puisque tu en parlais, une des autres innovations, c'est de mettre un milieu plutôt axial sur le côté gauche. Donc ça a été Zielinski ou Fabian Ruiz. Toi, tu le connaissais, Fabian Ruiz, parce que tu es admirateur ou un bon observateur, en tout cas de la Liga, et notamment du Betis, j'ai cru comprendre cette saison. Oui. Est-ce que ça t'étonne de voir Fabian Ruiz à ce poste-là, et comment tu vois ses premières apparitions sous le maillot du Napoli?
Alors, ça m'étonne sur le papier. Maintenant, quand on voit l'animation, ça m'étonne pas forcément parce que, c'est comme Maximovic côté droit. Vu la manière dont ça s'articule, tu te dis, ah oui, effectivement, il est côté droit, mais pas forcément. Donc, du coup, là, ses qualités sont quand même plutôt bien exploitées. J'étais finalement plus surpris du fait qu'il soit pas forcément lancé d'entrée de saison, même si tu peux te dire il y a le temps d'acclimatation, etc. Mais il lui a fallu quelques semaines pour véritablement intégrer le groupe. Là, ce qui me, alors je suis tout à fait satisfait de ses performances. Je trouve qu'il montre véritablement ce qu'il était capable de faire au Betis l'an dernier. Donc là-dessus, il n'y a pas d'énorme surprise pour moi. J'ai pas l'impression qu'il surperforme ni qu'il sous-performe. Là où ça m'embête un petit peu, c'est finalement dans ce système-là. Alors c'est une vraie trouvaille. Sauf que j'ai l'impression que t'es un peu condamné à choisir entre Zielinski et Fabian Ruiz, qui sont pour moi deux des 4-5 meilleurs joueurs de cette équipe et deux des plus en forme. Et c'est un peu dommage. Alors ton système t'oblige un peu à mettre Caleron qui est plus un attaquant de l'autre côté, mais d'avoir deux joueurs pour un poste alors que sont deux de tes meilleurs éléments.
Mais du coup aujourd'hui Guillaume, c'est ce qu'on disait, si tu conserves ce milieu à deux, ce sera difficile de les faire jouer ensemble, enfin les trois joueurs dont tu parles, Zielinski, Alan et Fabian Ruiz, d'une manière différente que ce qui est fait actuellement. L'autre solution, c'est de repasser à un système à 3 où là, du coup, c'est Hamzik, entre guillemets, qui sauterait, ouais, avec Fabian Ruiz devant la défense et Zielinski et Alan devant lui. L'autre conséquence de repasser à un milieu à 3, ça serait de remettre Insigne sur un côté,
ouais,
ou alors de trouver un autre joueur pour occuper l'aile gauche et Insigne en faux attaquant devant.
Ouais, ça paraît compliqué parce que voilà, Ancelotti a quand même trouvé, après quelques tâtonnements, son assise. Après, voilà, moi, je suis d'accord avec Christophe. C'est vrai que Zielinski, tu te rappelles, Johan, on en a parlé assez souvent depuis, ouais, le début de la saison. Et c'est vrai que depuis quelques temps, il a un peu sacrifié. Alors, il rentre en cours de jeu. Mais c'est vrai que c'est quelques minutes par-ci par-là. Et au vu du début de saison qu'il a fait, du coffre qu'il a, du volume qu'il apporte, et c'est vraiment un joueur qui est total, Zielinski. Alors, il est encore jeune, il va progresser. Mais c'est vrai que le début de saison qu'il fait, voilà, on avait le sentiment qu'il était en train quand même d'exploser, entre guillemets. Et c'est vrai que maintenant, bon, on a l'impression qu'il est un peu stoppé avec le 4-4-2. Donc, moi, le 4-3-3, je pense pas qu'Ancelotti reviendra parce que voilà, il a trouvé, il me semble qu'il a trouvé son 11. Après, voilà, les hommes peuvent varier, comme disait Christophe. Mais c'est vrai que Zielinski, moi, j'aimerais le voir plus souvent. Alors voilà, Fabian Ruiz a fait aussi un gros match à Gênes la semaine passée. Donc, c'est aussi compliqué de l'enlever, mais c'est aussi important que le Napoli maintenant a un banc. Et c'est vrai que Ancelotti sait l'utiliser. C'est aussi important d'avoir plusieurs joueurs à plusieurs postes. Donc, il y a des sacrifiés, mais au vu de la saison qu'attend le Napoli, on peut penser que voilà, Zielinski aussi trouvera sa place.
Et d'ailleurs, pour parler de ce turnover qui est un point de friction entre De Laurentiis et Sarri la saison passée, puisque Sarri réclamait des joueurs et une profondeur de banc pour au final ne pas l'utiliser, et De Laurentiis lui reprochait clairement dans les médias de lui avoir fait acheter des joueurs comme Pavoletti, comme Gabbiadini, comme d'autres, et de pas les faire jouer. Là, aujourd'hui, si on prend les stats depuis le début de la saison, il y a quand même 16 joueurs, il y a que 12 journées de Serie A et donc 4 matchs de Ligue des Champions, si je dis pas, ouais, de bêtises. Il y a quand même 16 joueurs qui ont dépassé les 400 minutes de jeu. Il y a Diawara ensuite qui est pas très très loin. Mais voilà, Ancelotti, dans sa gestion, on sait que, alors toi Christophe, tu le connais bien, Ancelotti aussi, et t'en as parlé, t'as écrit sur lui. Tu disais que t'avais quelques réserves sur Ancelotti au niveau tactique. Il y a au moins une chose qui est reconnue partout où il passe, alors sauf peut-être au Bayern où ça a été un peu compliqué, mais on voit que c'est un peu compliqué pour tous les entraîneurs maintenant, c'est dans la gestion et dans le management du groupe. Et c'est là où il est intelligent cette saison à Naples, c'est qu'il y a des joueurs qui sont beaucoup moins frustrés que la saison passée. Et on sait que dans le Money Time, au mois de février, mars, avril, quand les choses vont s'accélérer et qu'il y aura peut-être des suspendus ou qu'il y aura peut-être des blessés, ces joueurs-là apporteront beaucoup plus au groupe du Napoli.
Ouais, pour relativiser mes réserves sur Ancelotti, disons que ma grande théorie, alors je dois sans doute pas être le seul à penser ça, mais c'est qu'en gros, pour gagner un championnat, mieux vaut avoir un projet de jeu plus ou moins immuable d'une rencontre sur l'autre qui fait que peu importe l'adversaire, tu peux faire un peu toujours la même chose, et qu'en Ligue des Champions, c'est surtout la capacité à être flexible, à t'adapter à l'adversaire, à pouvoir faire plusieurs styles qui va faire la différence, et qu'Ancelotti est meilleur pour s'adapter à l'adversaire que pour faire la même chose d'une semaine sur l'autre. Ce que pour le coup, il arrive quand même plutôt à faire à Naples, puisque même en changeant de dispositif, la façon de jouer reste globalement la même d'une année sur l'autre. Après ça, ce que tu disais sur les gestions de groupe, ça n'a pas fonctionné au Bayern, mais pourquoi? Parce qu'au Bayern, j'ai l'impression que tu ne peux pas faire de turnover, et sur certains joueurs, les Thomas Müller, etc., ça ne marche pas. Là, t'as quand même si t'as du talent, t'as quand même moins d'ego du côté des joueurs de Naples, et c'est vrai que c'est quand même un luxe de pouvoir faire, enfin tu vois, tu citais un Diawara qui pour moi n'est pas un joueur incroyable, mais n'empêche que s'il a, enfin, un, il est jeune, Et si la base autour de lui est quand même assez solide, c'est quelqu'un qui va, enfin, il va, ça va pas être un maillon faible de ton équipe. Donc, si à chaque fois t'arrives à ne changer que 3-4 joueurs, tu peux même mettre un Adam Ounas, je crois que c'est contre Sassuolo où il marque, qui n'est, je pense pas qu'intrinsèquement il ait forcément sa place là. Seulement, si tu gardes malgré tout une bonne colonne vertébrale, bah, il va pas forcément sortir du lot négativement. Donc, c'est vrai que là-dessus, Ancelotti fait un bon travail. Après, à voir si ça paiera en mars, parce que c'est toujours pareil. Là, pour l'instant, c'est positif. Ça permet à des joueurs qui n'auraient pas forcément de temps de jeu naturellement de progresser. D'être utile pour cette équipe, à la fois physiquement pour reposer des gens et puis pour progresser sur la durée. Maintenant, est-ce que ça va véritablement se sentir en fin de saison pour l'aspect physique? À voir. Logiquement, oui, mais bon.
Il y a, dans ce que tu as dit là au tout début, tu parlais de flexibilité, notamment en Ligue des Champions, et c'est un truc qu'on a remarqué dès le début de saison avec Guillaume. On en parlait dans des podcasts précédents avec trois entraîneurs plutôt qui faisaient beaucoup de changements et de tests. Il y avait Di Francesco avec la Roma, il y avait donc Ancelotti à Naples. Gattuso, je suis un peu moins, parce que Gattuso est quand même beaucoup parti sur son 4-3-3 en tout début de saison, en tout cas. Mais c'est surtout Allegri aussi qui cherchait un peu la formule, notamment devant, et qui testait pas mal de choses. Et avec Guillaume, on se demandait, pourquoi il y avait autant de tests dès le début de la saison. Et c'est vrai que c'est trois équipes qui sont engagées en Ligue des Champions, qui ont des ambitions en Ligue des Champions. Alors, la Juve a fait deux finales il y a pas très longtemps. La Roma a fait une demi-finale la saison passée. Le Napoli espère avec Ancelotti, et c'est notamment pour ça qu'il a été pris, briller enfin sur la scène européenne, puisque Sarri a clairement fait le choix d'abandonner la Ligue des Champions la saison passée pour se concentrer sur la Serie A. Voilà, c'est ce que tu disais. En gros, les entraîneurs italiens ont fait beaucoup de tests aussi cette saison. Toi, tu l'imagines dans le but de pouvoir répondre à plus de situations différentes en Ligue des Champions?
Ouais, et puis il faut différencier, par exemple, ce que fait Allegri n'a pas de conséquences directes sur les résultats a priori, c'est-à-dire qu'il a tellement une équipe, la base défensive est déjà tellement solide, et puis en Serie A il y a quand même un écart entre ses individualités et celles de la plupart des adversaires. Ça permet de tenter beaucoup de choses, en sachant que même si tu te rates, logiquement tu rectifies à l'heure de jeu, tu fais rentrer Douglas Costa ou autre, et tu peux quand même gagner les matchs. C'est une marge que n'a pas forcément la Roma en Ligue des Champions, même si l'adversité est pas toujours aussi haute que si tu affrontais Manchester ou autre. À mon avis, la Juve peut se permettre de faire des tests parce que il y a besoin de trouver une nouvelle formule et une nouvelle manière d'attaquer en incluant Cristiano Ronaldo, pour savoir comment est-ce que tu peux l'intégrer dans une équipe avec Dybala, Mandzukic, qu'est-ce que tu fais des remplaçants, etc. Du côté de Naples, c'est plus une réinvention pour comment est-ce que tu peux imposer ta patte après ce qu'a fait Sarri, parce que ça sert à rien de faire exactement la même chose que lui, sinon autant garder Sarri. Pour la Roma, j'ai l'impression que Di Francesco ne tâtonne et n'a pas forcément de vraie solution. Je suis pas sûr que Ligue des Champions ou pas Ligue des Champions, je pense surtout qu'il n'arrive pas à trouver exactement la bonne manière de jouer, et que semaine après semaine, il tente en espérant avoir quelque chose, et quand il trouve quelque chose, il le garde la semaine suivante, et parfois ça fonctionne et parfois ça fonctionne pas forcément.
Alors Guillaume, puisque tu parlais de Gattuso, on va venir sur le terrain de l'AC Milan. Alors déjà, les dernières nouvelles du côté de l'infirmerie sont quand même pas très bonnes. Non. Puisque Romagnoli a quitté le stage de l'Italie et sera absent quoi, un mois à peu près,
c'est ça ? Un mois, ouais.
Là, on vient d'apprendre, puisqu'on enregistre lundi soir, que Bonaventura serait absent jusqu'à la fin de la saison.
Exactement, 7-8 mois.
Voilà. Alors là, il y a un match ce week-end contre la Lazio.
Ouais.
C'est compliqué de s'imaginer un 11 très compétitif sur ce match-là, et notamment dans le secteur défensif.
Écoute, aux dernières nouvelles, on devrait s'orienter vers une espèce de 3-5-2 avec Souza peut-être à côté de Coutrone devant, parce que faut pas oublier que Higuain est suspendu de match. Donc au-delà de l'aspect défensif, t'as un défenseur central avec Zapata qui devrait être aligné forcément avec ou Rodriguez à gauche et Calabria à droite, et peut-être Abate aussi qui pourrait jouer, donc ça va être assez compliqué. Pour le moment, de ce qui se dit en Italie, de ce que j'ai entendu avant de commencer le podcast, c'était une défense à 3 avec Zapata, Rodriguez et Calabria. Au milieu de terrain, il y aura Kessi, et puis après sur les côtés ce sera encore autre chose. Faut voir si Souza va jouer devant ou pas, mais Coutrone sera titulaire forcément. Mais c'est vrai que ça fait encore beaucoup de blessés. Là, honnêtement, c'est, moi, je l'ai marqué sur Twitter. C'est vrai que ça devient à la limite du grotesque parce que autant il y a des blessures, voilà, qui, voilà, comme celle de Kessié, même Moussaku quand ils sont rentrés dedans en contre le Betis Séville. Mais voilà, Bonaventura, c'est 7-8 mois. Tchalanoglu, il joue sous infiltration depuis un mois. Kessié joue sur une jambe depuis un mois aussi. Les défenseurs sont trouvés n'appu. Comme tu l'as dit, Romagnoli a quitté le stage. Donc honnêtement, moi je peux croire, voilà, à 2-3 blessures, bon, là t'as la poisse, ça peut arriver. Là honnêtement, t'as quasiment une équipe titulaire qui est dehors. Donc tu l'as dit, dimanche il jouait à Lazio à 18h, c'est un match compliqué, c'est un match pas décisif pour la suite de la saison, mais c'est quand même ton adversaire quasiment principal pour la Ligue des Champions avec la Roma. Donc tu te déplaces à Rome sur un terrain compliqué sans tes meilleurs joueurs. Higuain, bon bah c'est de sa faute s'il sera pas là, donc ça aussi ça va être un gros manque. Mais c'est vrai que aujourd'hui lundi, t'imaginer le 11 du Milan dimanche, c'est compliqué, et encore plus que ça à la Lazio. Donc c'est vrai que dimanche ils vont essayer de limiter les dégâts.
Alors toi Christophe, il y a un secteur qui te convainc mais pas du tout, on va dire, depuis le début de la saison, c'est mieux de terrain milanais. Alors normalement de base il était constitué, arrête-moi si je me trompe Guillaume, de Bilia devant la défense,
Kessié, ouais, voilà. Kessié à droite et Bonaventura à gauche.
Exactement. 4-3. Et là en gros deux des trois joueurs déjà sont blessés, il est passé un milieu à deux en incluant Bakayoko du coup qui se débrouille mieux.
C'est un 4-4-2 avec Kessié, Bakayoko en double pivot. Et à droite, bah, tu peux avoir Souzo, puis à gauche, Çalhanoğlu, mais comme Çalhanoğlu est aussi blessé, donc voilà, pour le moment, c'est Kessié, Bakayoko, on va dire, devant la défense.
Du coup, Christophe, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce fameux milieu milanais?
En fait, alors je t'avoue, il y a une partie que je fais de tête, je me suis pas forcément des archives, mais j'ai l'impression que vraiment la grosse différence entre le grand Milan et le Milan des 3-4 dernières années, c'est vraiment cet entrejeu. Il y a eu une transition, tout le monde n'a pas arrêté d'un coup, mais c'est vrai que quand tu passes de Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Kaka à maintenant tous les joueurs qu'on vient de citer, c'est problématique, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand numéro 6, numéro 8, et pas forcément numéro 10, que t'es pas obligé de jouer avec un numéro 10 dans le foot actuel, mais tu vois, on parlait de Fabian Ruiz par exemple tout à l'heure, alors je sais pas si Milan peut le faire, mais un joueur comme ça, tu le mets dans l'entrejeu du Milan, pour moi il serait largement au-dessus de tous les autres. Bon là il est blessé, mais je fais partie de j'ai un gros problème avec Lucas Biglia, c'est clairement, mais historiquement depuis 10 ans quand je l'ai fait arriver en Belgique, j'ai beaucoup de mal avec ce joueur. De manière générale, en fait, je sais pas ce que Milan cherche à faire dans l'entrejeu, parce que depuis plusieurs années, j'ai l'impression qu'ils ont les joueurs moyens. Là en plus, au jeu de blessures, etc., tu vas passer d'une équipe, enfin là pour moi le Kessié Bakayoko c'est un peu redondant, tu peux te projeter mais t'auras énorme, donc du coup tu vas encore être un peu plus dépendant de tes joueurs de côté. Globalement pour moi ça manque d'un bon numéro 6 et d'un bon numéro 8, mais en tout cas des joueurs qui sont capables véritablement de mener le jeu par l'axe et pas d'être juste des courroies de transmission qui vont récupérer des balles et puis ensuite les donner aux ailiers, quoi.
Alors l'autre solution, et on milite avec Guillaume depuis un petit moment pour l'avoir au moins essayé rien qu'une fois, puisque tu parlais de joueurs dans l'axe qui sont capables de faire des transitions et des différences, c'est Çalhanoğlu, qui est lui un 10 pour le coup, qui est pas un 8 mais qui est un vrai 10, qu'on ne voit jamais dans ce secteur de jeu là, puisqu'il est toujours aligné à gauche quand il est aligné, ce qui est aussi pas toujours le cas. Et parce qu'on, avec Guillaume, on en parle depuis quelque temps déjà, mais en gros, c'est les milieux donnent à Souzo et puis après c'est Souzo qui se débrouille pour essayer de faire la différence et essayer de mettre sur orbite Higuain ou Coutroné ou lui-même sur des exploits individuels faire la différence.
Mais là le problème c'est que quand t'es du côté de Naples, que t'y es, qu'il y ait un milieu plutôt axial qui soit placé sur le côté, ça peut se justifier parce que t'as la maîtrise du ballon, parce que tu peux créer des différences au cœur du jeu. Donc là, pas de souci. Le problème, c'est que Çalhanoğlu, déjà sur le côté, puisqu'il va avoir tendance à se recentrer, mieux vaut avoir un latéral assez fort. Ouais. Là, Rodriguez, j'étais plutôt client avant qu'il vienne à Milan, mais j'ai du mal à véritablement voir son apport et Enfin, tu vois, si, bon, Milan ne peut pas le faire, mais si t'as Marcelo derrière Çalhanoğlu, pourquoi pas? Effectivement, Marcelo va gérer tout le côté gauche, Çalhanoğlu se ressent, tu peux avoir une supériorité dans le milieu de terrain, à la limite, ça justifie. Mais là, que t'es ton meilleur joueur de ballon sur le côté, alors que ton entrejeu est relativement faible, pour moi, il y aurait des raisons. Si, alors faut l'animer correctement, etc. Mais même de tester dans un double pivot un joueur comme Çalhanoğlu, quitte à ce que tu le protèges vraiment pour qu'il soit plus en position de numéro 10 qu'un véritable numéro 8 qui doit faire beaucoup de tâches défensives. Mais là, sur le côté, c'est véritablement gâché. Et il y a pas mal de rencontres où je le voyais en fait toujours faire la même chose. Et c'était rigolo parce que c'était Souza aussi, c'était toujours la même chose, mais pas la même. C'est-à-dire que Souza repiquait et frappait ou alors centrait enroulé au deuxième poteau, mais toujours sur son pied comme ça. Et Çalhanoğlu repiquait dans l'axe, fixé et faisait une petite balle plat du pied à des joueurs du double pivot qui arrivaient lancer. Et c'est bien, mais au bout d'un moment, quand tu fais toujours la même chose, qu'il y en a un qui fait toujours centre ou frappe en revenant sur son pied fort, et l'autre qui va pied droit et qui va faire une petite passe axiale, c'est bien. C'est comme tu disais, c'est très scolaire, c'est toujours la même chose, sauf qu'au bout d'un moment, les adversaires ont compris ce que tu faisais. Et si t'es pas capable d'avoir la diversité d'action, mais pourquoi? Parce que c'est pas ton poste, donc tu n'as pas des réflexes déliés. Ton équipe devient vraiment très prévisible.
Alors, quand on a préparé le podcast, il y a une de tes phrases que j'ai retenue et que j'ai beaucoup aimé pour décrire le Milan. C'est une équipe qui semble imiter des façons de faire de grands clubs sans savoir pourquoi.
Oui. Bah, c'est, sur le début de saison, j'avais vraiment l'impression que Gattuso était un élève qui voulait à qui on avait demandé comment joue le Barça. Et bah tenez, je vais vous montrer comment jouait le Barça en 4-3-3 avec un numéro 6 relanceur, etc. Sauf que, un, c'était pas le même effectif. Et deuxièmement, c'était du tableau noir, mais il n'y avait aucune variété, aucune créativité dans ce qui était fait. C'est-à-dire que c'était des circuits qui étaient répétés. Pour un numéro 6, Biglia, bah, il va relancer, mais ça sera toujours des passes relativement simples, il va pas forcément chercher à casser des lignes. Tes imitations de Xavi, Iniesta, très clairement, c'est pas le même type de joueur. Et finalement, pour moi, tu dois, si ton meilleur joueur c'est Souza et que ton autre meilleur joueur c'est Higuain, enfin voilà, ton meilleur joueur au milieu de terrain c'est Souza et ton meilleur joueur total c'est Higuain, c'est lui qui doit te marquer des buts, tu dois réussir à trouver un moyen de les mettre en valeur. Et là, les circuits de jeu du 4-3-3 milanais ne permettaient pas pour moi de placer Souza dans des situations de 1 contre 1 ou de véritablement bien servir Higuain dans la surface. Donc c'est vrai que, alors, je trouve que Gattuso progresse malgré tout. Quelques années, même le tableau noir, il l'aurait mal fait, et même l'imitation aurait été très, très ratée. Mais je n'arrive pas à voir en quoi l'effectif de Milan justifie ce qui a été fait sur le 4-3-3 en début de saison. Et pourquoi est-ce que maintenant, je ne vais pas dire que tu changes du tout au tout, mais tu pars sur presque un autre projet avec Coutrone et Higuain.
Et dans la description, on retrouve ce qu'on dit, Guillaume, c'est que Higuain est esselé et qu'il n'est pas bien servi, pas bien utilisé, pas mis en valeur, et donc du coup, voilà, il est pas aussi utile qu'il devrait l'être comme meilleur joueur de l'équipe.
Oui, je buvais les paroles de Christophe parce que honnêtement, il a raison sur tout. Il a raison sur tout. Et, juste pour faire très rapidement, pour dire ce qu'il a dit, c'est vrai que le milieu de terrain, c'est le gros problème depuis des années. On n'a pas 6 depuis très très longtemps. Milan en manque de 6 et depuis Pirlo, parce qu'il y a eu Montolivo. Bon, Bilia, visiblement, vous êtes deux grands fans, donc on va revenir sur lui. Mais voilà, donc oui, le gros problème du Milan, et les supporters le savent bien, ils le soulignent souvent, c'est le milieu de terrain depuis au moins 5-6 ans. Donc Christophe avait raison là-dessus. Sur Çalhanoğlu en 6, Gattuso en avait parlé en conférence de presse, dans une de ses premières conférences. Il a dit que voilà, il avait lancé la passe, sauf que bon, il l'a jamais testé. Donc voilà, c'est une bonne idée, mais pour le moment, on l'a jamais vu. Et pour revenir sur Higuain, écoute, moi j'ai vu Milan deux fois cette saison de vue du stade, et c'est vrai que, et dans le derby et contre la Juve, c'est vrai que Higuain, tu le vois pas, tu vois pas, parce qu'il participe pas au jeu, parce que c'est un jeu, comme l'a dit Christophe et comme on l'a dit souvent avec Higuain, c'est un jeu trop stéréotypé. Le 4-3-3 qu'il avait, et Christophe a tout dit, c'était scolaire, c'était élémentaire, c'était des passes latérales. Bon, moi, Bilia, je suis pas aussi sévère que vous sur lui, mais c'est vrai qu'il cassera jamais une ligne, voilà, ça c'est un fait. C'est vrai qu'il casse jamais les lignes, toujours horizontalement, pardon. C'est vrai que c'est compliqué pour ça. Mais c'est vrai que Gattuso a des bonnes idées, mais tu peux avoir une belle mélodie. Et si t'as pas les musiciens, ça sert à rien. Donc il a pas les joueurs pour faire le même football que le Barça ou qu'une autre équipe. Donc avoir des idées, c'est bien, mais il a aucun interprète qui justifie de jouer d'une telle manière. Et ça se voit avec Higuain. Higuain, il a jamais un ballon. Johan, je pense qu'on l'a assez répété depuis le début de saison. Et est-ce que tu vois des progrès, franchement? On n'en voit pas beaucoup. Contre la Juve, il a pas touché beaucoup de ballons. Après, voilà, il y a eu la nervosité, il y a eu le fait que c'était un match particulier, mais moi, je vois aucun progrès dans la recherche de Johan, dans la façon de lui transmettre les ballons, il n'est pas recherché. C'est souvent, voilà, ballon à Souzo, et puis après, voilà, on essaye de. D'ailleurs, les 6 buts que marque Higuain, si je ne m'abuse, je crois que c'est 5 passes décisives de Souzo. Donc, c'est pour te dire l'importance que a Souzo dans les buts d'Higuain. Mais c'est vrai qu'à travers le jeu, à travers le collectif, Milan n'arrive pas à faire jouer et à exprimer son meilleur joueur. Donc, c'est un vrai problème. Et si Gattuso est en progrès, comme dit Christophe, il est en progrès, c'est un fait parce que c'est un jeune entraîneur. Moi, malheureusement, voilà, je le répète, moi, j'y crois pas. Je pense que, à la fin de saison, de toute manière, il partira. Parce que Leonardo ne l'apprécie pas beaucoup et c'est sûr qu'en fin de saison, ce sera terminé. Mais voilà, moi, je suis honnête, je sais que j'adore Gattuso, j'adore la personne, j'adore l'humain, il est en progrès. Mais je pense vraiment que c'est encore trop élémentaire et Milan n'a pas le temps. Alors Gattuso, malheureusement, lui en a besoin. Donc, c'est vrai que ça va devenir compliqué.
Alors, on va passer à un entraîneur qui a des idées, qui réussit à les appliquer, qui joue, lui, dans un beaucoup plus petit club que l'AC Milan, c'est De Zerbi. Quand je t'ai demandé, Christophe, les équipes qui t'avaient marqué, tu m'as notamment cité Sassuolo. C'est vrai que nous, on en a parlé depuis le début de la saison, c'est une équipe qui nous régale parce que c'est pas une équipe qui est composée de joueurs hyper talentueux au niveau individuel. Il y a certes un joueur comme Berardi qui est assez intéressant. Mais derrière, voilà, par exemple au milieu de terrain, il n'y a pas de stars, les Magnanelli, les Duncan, les Sensi. Voilà, c'est pas des joueurs qui seraient titulaires dans une formation forcément plus huppée. Et pour autant, il réussit à mettre en pratique ses idées qui sont, on va les résumer assez rapidement, c'est repartir toujours de derrière et de façon propre au sol, combiner à trois avant d'élargir sur les ailiers qui prennent très vite la profondeur, des transitions qui sont très rapides. Et ça, c'est une équipe qui t'a marqué depuis le début de la saison.
Ouais, alors je les ai forcément moins vus que d'autres parce qu'ils sont un petit peu moins télévisés en France. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je les ai vus, et ce qui m'a le plus marqué, c'est le match face à la Juve, parce que c'est là où tu as le plus de chances d'abandonner ton projet de jeu. Et très clairement, tu pourrais pas forcément vouloir à Sassuolo de partir de derrière, etc., face à des équipes moyennes et d'abandonner quand t'arrives face à la Juve qui va te chercher haut. Et là, bon, Sassuolo perd le match, notamment sur une erreur de relance, mais avait réussi à finalement dicter le tempo du match. Pourquoi? Parce que toutes les relances étaient bien propres, bien lentes finalement. Enfin, du coup, tu ralentissais un peu le jeu. Et forcément, même quand tu perdais la balle, t'avais réussi à installer une phase de possession de 30 ou 40 secondes avant. Du coup, bah, c'était toujours 30 ou 40 secondes de gagner, alors que si tu balances loin devant, bah, tu vas reprendre la marée, reprendre des vagues en rendant la balle à l'adversaire et risquer plus facilement de craquer. Et deuxièmement, Sassuolo, je trouve, arrive vraiment à installer une possession qui est à la fois pour objectif forcément de déséquilibrer l'adversaire, parce que malgré tout, le but du foot, c'est quand même de marquer des buts, mais aussi d'installer un dispositif qui te verrouille et qui t'empêche de concéder des transitions rapides de l'autre côté. C'est-à-dire que non seulement les passes, effectivement, tu vas essayer de toucher rapidement tes ailiers et d'avoir créé un décalage pour que eux ensuite aient ce petit espace à exploiter. Mais même si la balle est perdue, sauf si c'est vraiment sur la toute première passe, bah les joueurs auront une distance entre eux et le bloc sera positionné de sorte à ce que tu puisses assez facilement récupérer la balle. Et à la fois, je trouve ça très bien d'un point de vue tactique. Et là, pour le coup, peu importe le dispositif, là, contrairement à Milan, par exemple, ça joue à 4 derrière, ça joue à 3 derrière. Les principes restent. Après, c'est les circuits qui varient un petit peu et le nombre de passes que tu vas faire pour toucher tes joueurs offensifs. Mais ce que, pour moi, c'est véritablement la voie à suivre pour les clubs, on va dire, moyens. C'est vrai que les clubs vraiment faibles, c'est pas forcément où c'est le maintien est vraiment en jeu sur chaque rencontre. Je comprendrais que tu ne puisses pas forcément avoir le mental pour faire ça, sachant qu'en Italie en plus les présidents ne donnent pas toujours le temps aux entraîneurs de bosser des choses comme ça. Mais pour une équipe comme Sassuolo qui a priori a quand même l'effectif pour être à l'abri du maintien et être au pire 15e, sauf vraiment à se rater complètement. Pour moi, la voie à suivre pour à la fois monter dans le classement, parce que là, pour le coup, Sassuolo fait un bon début de saison, mais même si tu termines 12e, pour valoriser tes joueurs, pour les responsabiliser, montrer à des clubs acheteurs qu'ils ont du ballon, c'est véritablement la chose à faire. Et puis je fais un petit looping, mais on parlait de Fabian Ruiz tout à l'heure. Si Fabian Ruiz a pu exploser au plus haut niveau et pu être acheté aussi cher par Naples, c'est parce que le Betis était une équipe qui était très joueuse et qui faisait tous les matchs avec 60% de possession, et on s'est rendu compte que Fabian Ruiz était un très bon joueur de foot. Et sur ça, le Betis a pu faire tout son mercato avec les sous de cette vente là et clairement, si des clubs comme Sassuolo veulent passer un cap, le meilleur moyen pour moi, c'est à la fois d'avoir cette identité forte, mais aussi de mettre en place un jeu qui va permettre de valoriser ces joueurs et de dire, ah tiens, bah Duncan sait faire des passes au sol, ce que tu ne vas pas forcément penser, et du coup tu vas dire, bah ça complète un petit peu le bagage physique qu'il peut avoir, etc. Et bah du coup sa valeur va prendre 10 millions et tout ton club va pouvoir monter en gamme, parce que après tu vas pouvoir faire des bons achats derrière.
Alors parmi les joueurs qui ont été valorisés, Guillaume, j'en avais noté quelques-uns, et les deux plus marquantes ces dernières années, c'est Pellegrini qui est aujourd'hui à la Roma et Politano qui est à l'Inter.
Ouais, mais comme disait Christophe, voilà, c'est le collectif aussi qui s'est sublimé les individualités, et donc le fait que les Zerbi, voilà, aussi dénature pas son jeu contre les gros, ça permet aussi de voir le coffre qu'ont certains joueurs. Donc
ça nous avait surpris quand même l'approche, hein, je sais pas, ouais, si tu te souviens, on en avait parlé de ce match contre la Juve, ça nous avait quand même surpris.
On avait parlé avant et après, tu vois, avant on avait espéré le fait que les Zerbi, voilà, ne se dénaturent pas et n'apportent pas de bus à la Lens Arena, et finalement tu vois, bah il a apporté son jeu, comme l'a expliqué Christophe, voilà, il a joué son jeu. Donc c'est vrai que on a trop souvent l'habitude, un peu comme faisait Empoli, tu te rappelles, oui, avant que voilà le malheureux Andrea Soli se fasse débarquer. Mais c'est vrai qu'Empoli aussi avait fait son jeu contre la Juve au point qu'ils ont mené pendant une bonne partie du match. Donc c'est vrai que ce genre d'entraîneur, on n'en voit plus beaucoup. Et c'est vrai que voilà, quand on voit Politano ce qu'il fait à l'Inter, honnêtement, c'est l'un des meilleurs depuis le début de saison. Donc c'est vrai que après il y a toujours un cap à passer entre, voilà, entre Sassuolo et un club de niveau plus élevé. Mais c'est vrai que ce que fait De Zerbi, je pense qu'on l'a assez souligné depuis le début de saison. Voilà, c'est bien. Après c'est un club, voilà, de niveau moyen. Mais c'est vrai que c'est un entraîneur qui est quand même salué un peu partout en Italie. Ses idées sont bonnes. Là, il fait avec les moyens du bord. Il n'a pas des joueurs non plus exceptionnels. Mais c'est vrai que ce qu'il fait avec ce collectif-là et le classement qu'il a et le jeu qu'il apporte à Sassuolo, ça fait du bien. C'est vrai que c'est un entraîneur, je pense, qui pourra dans les prochaines années même espérer atteindre un plus grand club en Italie.
Le risque avec ce genre de stratégie, entre guillemets, un peu jusqu'au boutiste, c'est que le jour où ça ne marche pas, on n'a pas forcément de plan B. Et ça, du coup,
Christophe, un peu comme ça arrive,
ouais. Ouais, comment tu l'analyses? C'est, du coup, c'est un risque qu'il faut prendre, et c'est pas grave, il y a des matchs qui seront balancés et on n'a pas le choix, c'est dans le processus d'apprentissage et voilà, ou il faudrait aussi se mettre à la recherche d'un plan B et être parfois un peu plus pragmatique, entre guillemets, dans le sens où je sais pas si tu as vu le match contre le Milan, où là c'était vraiment un peu une caricature, mais jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils prenaient l'eau, ils prenaient des vagues parce qu'ils rataient leur première passe, et derrière c'était des 3 contre 1 pour Milan, ou des 3 contre 2, etc., avec des joueurs qui arrivaient lancés comme des avions, et les deux défenseurs centraux qui étaient sur le reculoir et qui savaient pas s'il fallait sortir, pas sortir, de toute façon ils étaient pas en surnombre. Tu te dis quoi? Tu te dis que bah tant pis, c'est pas grave, le match contre Milan, c'est la preuve que bah il y a certains matchs où voilà, ils vont être balancés, mais que par ailleurs, sur la longueur du championnat, ils en récolteront les fruits.
Alors j'avais vu une partie du match face à Milan et pas la bonne partie pour Sassuolo, du coup je vois très bien ce dont tu parles sur le fait d'un peu de t'entêter dans une idée. C'est vrai que dans ces moments-là, tu te dis, bah tu peux rajouter un peu de pragmatisme sans forcément balancer devant. Est-ce que, enfin, relancer au sol, ça veut pas forcément dire à chaque fois prendre des risques incroyables avec la balle, et tu peux limite faire tourner derrière et attendre que le temps passe et calmer le jeu. Et c'est vrai que dans ces moments-là, mais c'est le cas pour toutes les équipes qui tiennent la balle, je veux dire, même City face à Liverpool, tu peux prendre 3 buts en quelques minutes. Pourquoi? Parce que tu vas t'entêter dans le fait de faire des passes, sauf que tu auras un peu moins confiance et que l'adversaire au contraire aura un surplus d'énergie et va aller chercher beaucoup plus ces passes-là et te mettre la pression. Pour moi, c'est pas forcément un problème de n'avoir qu'une seule idée tant que cette idée-là est bonne et maîtrisée par les joueurs. Si pendant 3 ou 4 matchs de suite, la première relance est totalement ratée et que tu prends des buts, là il faudra véritablement se poser des questions. Est-ce que le personnel est à la hauteur des responsabilités qu'on lui confie? C'est vrai que c'est bien beau de jouer au sol, mais si tu n'as aucun joueur capable de faire ces passes-là, ça sert absolument à rien. Et là, malgré tout, pour l'instant, les joueurs ont montré, même s'il y a forcément des moments un peu plus faibles, mais qui sont en mesure d'avoir les épaules et d'assumer ces responsabilités-là. Le risque, c'est que si que ça commence à vraiment mal tourner sur plusieurs matchs de suite, tu peux avoir une perte de confiance des joueurs qui vont se dire finalement ça me dessert plus qu'autre chose parce que je me retrouve toutes les semaines dans les buts de gag parce que j'en coûte
deux. Parce que t'es exposé en gros.
Voilà, c'est ça. Donc c'est un joueur préférera toujours avoir la balle et montrer ce qu'il sait faire que simplement faire des courses pour combler des espaces. Maintenant, c'est vrai que si t'es trop exposé et qu'on voit que tu coûtes des buts, tu peux perdre un peu confiance dans l'entraîneur et ses principes. Mais moi, je pense que tu peux installer, comme je disais tout à l'heure, une dose de pragmatisme tout en gardant tes principes. Et ce qui était un peu le cas contre la Juve, c'est-à-dire que, ok, ça relançait au sol, mais ça cherchait pas forcément à casser vite la première ligne et à partir sur une transition, parce que tu savais qu'une fois que la transition est finie, soit il y a but, soit tu rends la balle à l'adversaire, mais en tout cas, tu vas devoir retourner sur une phase défensive assez rapidement derrière. Tu peux faire tourner derrière et calmer un peu le jeu, à voir si l'adversaire presse ou pas, mais je pense pas que tu doives véritablement transiger sur tes principes avec la variable. Pour moi, la variable aussi, pour conclure, c'est le niveau de Berardi. Si Berardi redevient le joueur qu'il était il y a 2-3 ans, tu peux te dire, ah bah mettre la balle dans la surface, même dans des mauvaises conditions, Berardi va réussir à l'exploiter. Berardi, dans sa forme actuelle et dans son niveau actuel, pour moi, si tu le sers, tu dois le servir dans de bonnes conditions, sinon il va pas forcément réussir à exploiter ses occasions. Et comment le mettre dans des meilleures conditions qu'en éliminant l'adversaire grâce à un bon jeu préparatoire auparavant?
Alors, un entraîneur qui a une dose, lui, de pragmatisme et ce que n'a peut-être pas encore De Zerbi et qui va sans doute acquérir au fur et à mesure de sa carrière, de ses choix et aussi de défaites un peu cuisantes comme face au Milan, c'est Gasperini. Alors, t'en as parlé un peu dans le dernier podcast de Vue du Banc, Christophe, notamment du dénommé Atubur. J'ai bien retenu que tu avais parlé de ce latéral. Alors, déjà, Gasperini a aussi plus d'expérience, ce qui fait à l'Atalanta depuis 2 ans et demi est quand même assez remarquable. Précisons qu'ils ont fini 6e, 7e et qu'actuellement ils sont 8e. Après un début de saison très compliqué où on en avait parlé, Guillaume, l'élimination en Coupe de l'UEFA avait sans doute eu des conséquences assez lourdes dans l'approche psychologique des matchs. Là aujourd'hui, l'Atalanta est retour au meilleur de son niveau, on va dire, reste sur 4 victoires consécutives. Et ce qui est intéressant avec Gasperini, c'est que tous les ans, l'Atalanta fait partie de ces clubs qui sont un peu pillés, entre guillemets, parce qu'ils perdent leurs meilleurs joueurs, ils n'ont pas les capacités financières de les retenir, et puis même les joueurs veulent aussi évoluer à un autre niveau après 2 saisons passées à Bergame. Et pour autant, on retrouve la même structure, on retrouve la défense à 3, on retrouve des joueurs assez agressifs, des joueurs très costauds dans les duels aériens, très bons sur les coups de pied arrêtés, des joueurs qui ont pas mal de fantaisie. Alors moi, en réfléchissant tout à l'heure, j'ai fait un peu le parallèle entre le trident offensif de l'Atalanta cette saison, qui est composé de Gomez, Ilicic et de Zapata, au trident de Palerme, qu'avait Palerme à l'époque, ça devait être les années 2010-2011, je crois, où il y avait Pastore, ce même Ilicic, justement, et un attaquant qui pouvait être soit un attaquant de profondeur comme Cavani, soit un attaquant un faux neuf, entre guillemets, comme Miccoli, qui était plus un second attaquant, plus technique que Cavani, qui participait plus au jeu. Et c'est vrai que Gasperini, aujourd'hui, a une énorme cote. Alors, évidemment, le passage à l'Inter l'avait un peu fait baisser, parce que, voilà, c'était compliqué. C'était à l'époque où tout le monde se plantait à l'Inter aussi en même temps. Mais voilà, ce qu'on aime chez l'Atalanta, c'est que les années passent et le jeu reste.
Bah, contrairement à Gattuso, où il y a un dispositif, mais on ne sait pas forcément pourquoi est-ce qu'il est mis en place. Là, moi, ce qui m'interpelle quand je vois l'Atalanta, c'est que tout est fait avec un but précis, à savoir maximiser tes forces et cacher tes faiblesses. L'Atalanta est l'une des équipes qui presse le plus en Italie, à la fois visuellement. À chaque fois que je regardais l'Atalanta, je voyais que ça jouait très haut. Je regardais les statistiques avancées, les indicateurs de pressing. Effectivement, je crois que c'est la 3e équipe sur les indicateurs de pressing qui presse le plus en Italie. Et en fait, oui, toute la structure et toute la manière dont sont construites à la fois la phase avec ballon et sans ballon est faite pour mettre ton effectif en valeur. C'est-à-dire que ta défense à 3 fait que t'as 2 pistons, donc ils sont généralement Atobourg et Gossens, vous confirmerez ça. Qui sont des joueurs que, j'avoue, je connais pas forcément, je sais pas quel est leur réel niveau, mais à chaque fois que je vois l'Atalanta, je les vois servis dans des bonnes conditions. Pourquoi ? Parce que le milieu à 2, à 3, selon les renforts que tu as, mais en tout cas qui peut être en sous-nombre face aux adversaires, notamment quand c'est des 4-3-3 avec des milieux à 3 très resserrés, bah, tu vas très peu passer par le milieu, tu vas assez vite essayer de toucher De Rone, par exemple, qui lui va décaler le latéral. Et en fait, tu as souvent l'impression qu'il y a un joueur de plus du côté de l'Atalanta. Mais pourquoi ? Parce que ta zone forte qui sont les deux couloirs, bah, t'arrives assez vite à toucher ces joueurs-là. Et à l'inverse, ta zone faible qui peut être l'entrejeu axial parce que t'as moins de monde que l'adversaire, bah, tu vas y aller, mais de manière très courte. T'auras pas le temps de subir la pression et tu vas vite rediriger le jeu. Et si tu ajoutes à ça je trouve l'intelligence, alors j'ai jamais trouvé Ilicic si intelligent que ça dans le jeu, mais là je trouve que pour le coup il arrive quand même à faire des bons déplacements, et surtout de Papu Gomez, qui peuvent à la fois être ailiers mais se recentrer pour être juste derrière Zapata pour libérer le couloir aux latéraux, etc. Je trouve véritablement que cette équipe a une animation très intéressante. Alors si par exemple son pressing est cassé, tu peux voir que défense placée, ça peut être difficile de courir après le ballon, et que c'est pas la meilleure équipe d'Italie, mais son classement est presque mal payé, je trouve, par rapport aux intentions. Et je suis assez client de la manière dont l'Atalanta gère ses temps forts, temps faibles. Je trouve que c'est une équipe qui, quand elle a un temps fort de 10 minutes, peut se procurer, notamment face à l'Inter, 3-4 énormes occasions sur des espaces très rapprochés. Et ensuite, tu auras 20 minutes un petit peu plus difficiles, mais avec ton pressing assez haut, bah, finalement, tu vas très peu subir. Et donc, tu vas assez bien gérer les moments où tu arrives à créer des déséquilibres, et ensuite gérer le score si tu peux pour profiter des transitions derrière.
Alors, tu parlais des joueurs de côté. Il faut savoir quand même qu'ils ont déjà marqué 4 buts cette saison. Le secteur défensif, globalement, est hyper important sur coup de pied arrêté, mais aussi dans l'animation du jeu. Sur coup de pied arrêté, on a Mancini qui a déjà marqué. Il y a Palomino qui a marqué aussi un but. Et puis après, dans le jeu, alors il y a Atebourg qui marque. Il y a aussi Castagne qui est, pareil, pas un joueur très connu, le Belge. Je vous avoue que j'ai du mal à situer son niveau. Pour le moment, je l'ai vu faire des bonnes choses, par exemple contre la Roma, et d'autres un peu moins bonnes juste derrière. Donc je sais pas quel est son potentiel, jusqu'où il peut aller, parce qu'il a que 22 ans. Et le fameux Gosens aussi qui est à gauche. Et c'est vrai, Guillaume, qu'on en avait parlé la semaine dernière ou il y a 15 jours, je sais plus, sur l'importance des coups de pied arrêtés aussi dans cette équipe, corner ou coup franc, avec des super frappeurs comme Ilicic et Gomez, et des joueurs qui apportent une vraie densité physique sur cette phase de jeu.
Exactement, et surtout que voilà, que tu trouves pas même le but par voilà en passant par le jeu, c'est vrai que coup de pied arrêté, ça fait quand même quelques années qu'Atalanta a marqué des buts sur coup de pied arrêté, donc c'est vrai que c'est une arme qui est importante. Et voilà, comme pour revenir un peu plus sur le discours global, c'est vrai qu'on en voit quand même des joueurs passer par Atalanta. Il y a eu Conti, il y a eu Kessi, il y a eu plusieurs joueurs qui partent chaque année, et pourtant malgré ça, Gasperini, qui voilà est maintenant enfin reconnu à sa juste valeur en Italie, trouve toujours le moyen de faire une belle équipe. Et c'est vrai que cette année, ils sont partis un peu handicapés par cette élimination à Copenhague. C'était compliqué dans les têtes au début, mais c'est vrai que le dernier match contre l'Inter, on a parlé la semaine dernière, Johan, c'est vrai que c'était quand même une leçon, parce que la première mi-temps, c'est vrai que c'était assez exceptionnel. Ouais. Donc non, c'est vrai que Gasperini, moi j'ai toujours bien aimé. C'est vrai qu'il y a eu ce passage à l'Inter qui fait un peu tache dans le CV, parce que c'est pas très bien passé, mais comme tu l'as dit, bon, ils ont eu Benitez, Stramaccioni, ils ont eu Desbourg. C'est vrai qu'ils ont eu quelques entraîneurs quand même qui sont passés et qui n'ont pas réussi. Et c'est vrai que Gasperini maintenant est reconnu comme un grand tacticien en Italie, comme un maître même. Donc oui, c'est vrai que l'Atalanta, cette saison, voilà, je lisais une interview de Gasperini il n'y a pas longtemps, je crois que c'est dans la Gazzetta, qui disait que maintenant, il espère retrouver l'Europe l'année prochaine. Mais c'est vrai que voilà, au classement, ils se sont replacés, parce qu'au début, c'était quand même compliqué. Ils étaient pas très bien, ils flirtaient un peu avec la zone rouge. Et c'est vrai que maintenant, voilà, ils ont retrouvé une assise, ils ont retrouvé du jeu. Et c'est vrai qu'après cette victoire contre l'Inter, ça peut être le début de la remontée, comme ils l'appellent à Bergame. Donc, moi, je suis assez content que l'Atalanta revienne au premier plan.
Et pour revenir sur Ilicic, ses trois passes décisives cette saison ont été réalisées sur coup de pied arrêté. voilà, c'est une arme vraiment très importante de la Talenta cette saison. On l'a vu notamment contre l'Inter, parce qu'il y a eu plusieurs occasions très dangereuses sur un coup de pied arrêté, même un but, ouais, si je dis pas de bêtises, qui a été marqué sur cette phase de jeu. Voilà, autre chose à rajouter, Christophe, sur la Talenta, éventuellement peut-être sur Duván Zapata.
Qui sont en train de débloquer.
Ouais.
Qui fait partie des joueurs qui sont, qui pour moi allient taille, enfin gabarit et vitesse, et qui je trouve sont plus, enfin sont presque décevants dans leurs statistiques, parce que à chaque fois je me dis mais il a tout pour lui en fait, et c'est un peu ce que je pensais aussi de Caicedo à une époque où je me disais mais il est grand, il est costaud, il va vite, il devrait pouvoir battre toutes les défenses. Et là pour le coup Zapata, il a un peu moins besoin de briller, parce que des gens comme Gomez, Ilicic, avec notamment leur qualité de frappe, fait que les buts peuvent venir d'ailleurs. Mais ce qui m'a surtout surpris sur Zapata, c'est quelques retours défensifs qu'il a fait. Et une implication dans le jeu, que ça soit lui, même Barreau, j'ai vu des fois des retours sur 40-50 mètres, alors qu'il y a un avantage de deux buts où il va poursuivre son homme pour récupérer la balle. Et c'est cette implication défensive là que t'imagines pas forcément de la part d'un attaquant comme ça, qui est seul numéro 9, même si des fois Gomez peut venir à ses côtés. Et malgré tout ça, il arrive à peser sur les défenses alors qu'il se dépense sans compter.
Mais tu penses que Zapata c'est du niveau de l'Atalanta, voilà, un club quand même, un bon club, mais pas de très haut niveau, où il est passé par le Napoli, c'est vrai qu'on s'en rappelle, c'est pas très bien passé. Ou alors est-ce que tu penses que voilà, c'est un joueur qui peut quand même espérer un peu plus que l'Atalanta, ou c'est un club qui doit rester dans un club pas moyen, mais voilà, de moyen haut niveau, on va dire.
J'avoue que vu son âge, 27 ans, ça me paraît difficile de l'imaginer plus haut, si déjà il pouvait faire une saison très aboutie sur le plan statistique avec l'Atalanta, parce que là il a marqué qu'un but cette saison au championnat. Ouais. C'est difficile de dire ah tiens, il va aller plus haut, parce que à plus haut niveau, enfin si tu parles vraiment des clubs Ligue des Champions, etc., ils vont eux aussi trouver des joueurs qui peuvent avoir de l'abattage, etc., ou peser sur les défenses, mais qui en plus vont marquer plus régulièrement. Si tu peux jouer tous les ans la Ligue Europa avec la Talenta pendant les 2-3 prochaines années, je pense que ça me paraît pas mal
plus. Ouais.
Oui, voilà. Après avoir aussi l'évolution de Barreau qui est très jeune, est-ce qu'il risque pas de prendre sa place à terme? Dans l'immédiat, ça me paraît encore un peu court. Mais tu peux.
Notamment dû aussi à l'investissement, parce que c'est un énorme investissement qu'a fait la Talenta, c'est quasiment 26 millions d'euros si on met le prêt plus l'option d'achat au bout de 2 ans, je crois. C'est vrai que pour un club comme l'Atalanta, mettre 26 millions d'euros, c'est quand même assez rare, ouais, voire même unique. Ouais, ouais. C'est un peu comme si, je sais pas, en France, on va dire, peut-être un club, j'allais dire Bordeaux, mais non, c'est même encore inférieur à Bordeaux.
Nantes,
mettait 26 millions d'euros sur un joueur, ça paraît assez improbable, même si c'est sur 3 ans et que c'est étalé, etc., mais c'est un investissement qui est très lourd. Alors le petit Barreau, il est jeune et il est très prometteur, c'est un des joueurs, voilà, sur qui compte vraiment l'Atalanta dans les années à venir. Mais c'est vrai que Zapata, par son... Et puis même s'il marquait pas, il restait quand même intéressant dans le jeu. Donc le fait qu'il se soit débloqué peut aussi amener, façon Cristiano Ronaldo, le ketchup, le fait que les buts arrivent enfin, parce que dans le jeu, il a jamais été inintéressant.
Non, ouais. Mais c'est vrai que c'est un joueur, comme disait Christophe, assez frustrant. Parce que des fois, tu vois dans certains matchs où vraiment, il casse tout et... T'as vraiment le sentiment que c'est vraiment un très très bon attaquant. Et c'est vrai que quand tu regardes le bilan un peu comptable, c'est vrai que voilà, c'est assez décevant. D'ailleurs, je pense pas que la Sampdoria regrette beaucoup son départ, alors qu'au début on aurait pu penser que voilà, c'était quand même une grosse perte. Et c'est vrai que bon, moi Zapata, je l'aime bien, mais c'est vrai qu'il est assez frustrant, parce que t'as vraiment l'impression qu'il pourrait faire plus. Et c'est vrai qu'au niveau des statistiques, bah ça laisse un peu à désirer. Donc il en est à un but. Donc il s'est débloqué, je crois que c'était à Bologne. Donc on va voir s'il arrive à marquer un peu plus de buts. Mais c'est vrai que pour moi c'est un joueur assez frustrant, parce que je pense qu'il pourrait faire plus. Et malheureusement au niveau comptable c'est quand même très décevant.
Alors un but c'est pas beaucoup, mais ça aurait été suffisant pour l'Italie. On va passer donc, du coup à l'Italie, à son match contre le Portugal.
Transition, très bonne transition.
N'est-ce pas ? Ouais, je les travaille, hein, ça vient.
Je vois ça. Je vois ça.
Donc 0-0 contre le Portugal. L'Italie jouera demain un match amical ce mardi, donc demain ce mardi, contre les États-Unis en Belgique. C'était pour le fameux Camoulox.
Camoulox.
Voilà. Alors, que penses-tu de cette Italie façon Roberto Mancini, Christophe ? On peut peut-être partir de ce qui a marqué ce match contre le Portugal et qu'on avait déjà vu par séquence, on va dire, contre, c'était la Pologne et l'Ukraine,
ouais.
Même l'Ukraine en match amical. C'est ce milieu et cette relation entre Jorginho et Verratti. Alors, Jorginho est un peu le cerveau de cette équipe et Verratti est un peu le fidèle lieutenant qui retrouve des aptitudes techniques et surtout je trouve qu'il est dans un rôle moins restrictif qu'au PSG. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je trouve qu'il ose et il tente beaucoup plus de choses là actuellement avec l'Italie que ce qu'il peut faire avec le PSG.
Équipe d'Italie vraiment très séduisante. Au moins, enfin, je pense que j'étais pas le seul, même vous au début, prise de fonction de Mancini, on se dit tiens, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va être capable de donner vraiment une identité de jeu à cette équipe. La réponse est oui, ça joue au football pour le coup, avec les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est que du coup il y a beaucoup de joueurs de ballon, notamment le duo Verratti Jorginho, qui sont un peu les deux meneurs de jeu qui se partagent les tâches et qui s'échangent la balle à de multiples reprises au milieu de terrain. Insigne qui en plus en progressant dans sa capacité à jouer axial en club peut proposer des solutions. Enfin bref, il y a la capacité de trouver pas mal de décalages et de faire beaucoup de bonnes choses dans la manière dont tu animes le jeu. Le problème c'est que alors ça s'est pas forcément vu très souvent face au Portugal, un peu plus face à la Pologne, mais c'est que quand tu perds la balle, forcément tu peux être exposé et si tu défends, enfin si t'as un bloc compact assez haut, bah Chiellini Bonucci, s'il doit faire une course face à un attaquant lancé, ça risque d'être problématique. Donc pour ça, il faut que Donnarumma soit assez haut, il faut éviter quand même de perdre trop souvent la balle. Heureusement, avec ces joueurs comme ça, c'est quand même relativement rare. Mais deuxièmement, il faut être capable de marquer des buts, et c'est un peu une palissade, mais quand tu crées autant de jeux, il faut qu'il y ait plus d'occasions, parce que là, pour le coup, face au Portugal, il y a 3-4 bonnes occasions, ouais. Le reste c'est plus des situations, il y a énormément de situations mais il manque de la présence, il manque l'avant ou le dernier geste, et c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que quand tu vois ce que fait un Immobilier en club, tu te dis que à la fois, enfin ok, Immobilier à la Lazio, je trouve, participe beaucoup au jeu, il fait beaucoup de passes décisives, c'est vraiment un pion essentiel, mais il a quand même gardé sa capacité à marquer des buts, et là t'as un numéro 9 qui marque beaucoup en club. T'as des joueurs qui créent beaucoup de jeux, mais t'arrives pas à faire le lien entre cette création de jeu dans les 35-30 derniers mètres adverses et le fait qu'un Immobilier puisse avoir beaucoup d'occasions. Alors, est-ce que en changeant un Chiesa par un joueur plus en forme, meilleur, est-ce que Chiesa dans quelques mois, s'il retrouve un peu plus de peps, qu'il est plus en confiance, est-ce qu'un Bernardeschi, ça peut tout changer? Je sais pas, au moins on prend du plaisir à voir jouer l'Italie, on voit où elle va. Le problème c'est que là tu peux très bien perdre 1-0 face au Portugal si Donnarumma sort pas un gros arrêt, et tu te diras ben mince, tout ça pour ça, finalement l'Italie aura perdu comme elle a gagné des matchs, à savoir sur une base solide et la capacité à être réaliste voire cynique.
Alors je note que tu n'as pas du tout répondu à ma question, donc soit la question était pourrie.
Oui, soit... en fait j'ai un peu suivi mon idée, j'avoue que... Je sais même plus quelle était ta question d'ailleurs. Je suis
sur
désolé.
Le rôle de Verratti dans cette équipe que je trouve moins
sur le rôle de Verratti.
Qu'à Paris. Enfin,
oui,
en tout
c'est
cas,
vrai.
Sur ce match-là, je l'ai trouvé beaucoup plus. J'ai pas l'adjectif qui me vient comme ça, mais disons qu'il a plus osé, il a pris plus de responsabilités. Il a aussi plus cherché à avancer avec le ballon et non pas seulement avec la passe. Des choses qu'on ne voit plus trop faire au PSG.
Oui, et ça, pour le coup, c'est vrai qu'en fait, je suis parti de Jorginho, mais en fait, je me suis éloigné de Verratti. Mais mon idée de base, c'était que quand tu joues avec Jorginho, c'est quand même très facile d'être plus libre. Et forcément, à Paris, il a pas ce numéro 6, ce meneur de jeu, qui peut un peu le soulager de ces tâches-là. et il peut là quand il est en sélection, il peut beaucoup plus s'éclater, tenter des choses. Ça ramène presque à ce que voulait supposément faire Emery quand il arrivait à Paris, à savoir faire de Verratti une espèce de Banega qui oscillerait entre numéro 8 et numéro 10. Alors est-ce que le problème, c'est que c'est toujours pareil, c'est là Verratti fera des bonnes choses en sélection. Est-ce que le fait de refaire 3 mois en club où il aura pas le même rôle, est-ce que du coup ça va pas le freiner dans cette progression qu'il pourra avoir en tant que numéro 8, parce que au PSG, n'ayant pas Jorginho à ses côtés, bah il pourra jamais, je pense, avoir ce rôle-là beaucoup plus libre, où il prend plus d'initiatives. Mais en tout cas pour l'Italie, c'est bien, parce que ça permet aussi de faire un rappel au pays. Parfois j'ai l'impression, alors je dis ça vu de l'extérieur, je suis pas comme Guillaume à vivre ça sur place, et je suis les médias d'un peu plus loin, mais j'ai l'impression que les Italiens se rendent pas forcément compte du talent de Verratti, parce que en sélection il ne montre qu'une petite facette de tout ça, et là ça rappelle que c'est quand même l'un des joueurs autour desquels tu dois construire ton projet.
Guillaume,
dis-moi.
Sur Verratti, du coup, et ce que vient de dire Christophe sur le fait que les Italiens se rendaient peut-être pas forcément compte de la chance d'avoir un joueur comme ça aussi talentueux.
Mais il a tout à fait raison. Mais c'est vrai que Verratti, le contraste que moi j'ai, ou toi Yohan, tu peux avoir, parce que toi aussi tu suis beaucoup de football italien, c'est vrai que nous, on le voit avec le PSG, donc on a connu, même si en ce moment, il est peut-être un peu moins bien, mais on sait tout le talent qu'il a. Et c'est vrai que quand tu voyais en Italie ces dernières années en sélection, on pourrait dire que c'était le frère jumeau ou le cousin, parce que honnêtement, il était méconnaissable. Et c'est vrai que je pense qu'il a réalisé, si ce n'est sa première mi-temps, la meilleure depuis qu'il est en sélection. On n'est pas là, parce que même contre la Pologne, tu te rappelles, il avait été pas mal, très bon. Mais c'est vrai que là, bon, deuxième mi-temps, il y a eu toute l'équipe qui physiquement a un peu cédé. Mais c'est vrai que la première mi-temps, Verratti, ça a été celui qui a survolé cette mi-temps, parce que c'est vrai qu'on l'a trouvé, j'ai trouvé, comme tu disais, Johan, plus libéré. Il s'est parfaitement foutu dans le collectif avec Jorginho, la connexion. Alors, en Italie, ils appellent ça le doppio regista. Donc, c'est vrai que ce qu'a trouvé Mancini depuis le match face à la Pologne, c'est très intéressant. Et c'est vrai que ce duo combine bien. Donc,
il est d'autant plus intéressant si tu ajoutes un troisième milieu qui, lui, va beaucoup se déplacer entre les lignes, qui va être capable
d'accéder. Comme Barella.
Voilà, comme Barella. Ou l'autre option qu'il peut y avoir, là, je pense que Barella a vraiment une longueur d'avance parce que ses prestations sont vraiment très intéressantes. Mais il y a un joueur qui est en train de changer de façon de jouer en club. C'est Lorenzo Pellegrini, qui lui est passé en espèce de faux numéro 10 à la Roma. Et donc, il pourrait passer, entre... Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai trouvé aussi sur ce match-là, c'est que c'était un milieu à trois vraiment très déstructuré. C'est qu'on était plus proche d'un double pivot, ce que tu disais, le double regista, devant la défense, et un joueur qui se déplace beaucoup et qui peut aller à droite, à gauche, dans l'axe, qui était assez libre de ses mouvements, et donc ça c'était Barella. Et c'est un rôle que peut remplir aussi Pellegrini. Mais pour répondre à ton observation, Christophe, sur est-ce que Verratti va garder ses aptitudes-là, en tout cas, ce qui est clair, c'est que Mancini il compte sur ces trois joueurs-là et qu'il y a très peu de chances, vu les bonnes réponses qu'il a. Alors tout n'est pas parfait évidemment, mais les premières réponses intéressantes qu'il a sur les performances des trois derniers matchs de ces trois milieux de terrain, il y a peu de chances que ça change.
Ouais, voilà, je pense qu'il a trouver sa colonne vertébrale. Je sais pas si c'est ça qui te fera gagner des grandes compétitions, parce que le football international est tellement c'est tellement l'affaire de quelques matchs, d'un coup de dé, de la capacité à tout le monde à faire une espèce de mission commando pendant 3 semaines, 1 mois, que tu peux Conte aurait très bien pu gagner l'Euro ou aller en finale avec des joueurs moyens, et il y a des équipes qui vont faire des projets de jeu très aboutis, et tu fais 2 erreurs de relance, tu perds 2-0 en quart de finale et t'es éliminé. Mais au moins là, l'Italie sait où elle va, et surtout elle a identifié quels étaient ses meilleurs joueurs et elle les met dans les meilleures conditions. Et c'est quand même ce qu'on attend d'un entraîneur, c'est savoir, si tes meilleurs joueurs c'est Verratti et Jorginho, tu fais en sorte que ce soit eux qui donnent l'identité à l'équipe.
Et du coup, sur Insigne, ton analyse sur son match, alors il était, on va dire, plutôt aligné au départ côté gauche, mais en fait, au fur et à mesure du match, il s'est retrouvé comme assez libre. Alors, moins avancé que ce qu'il faisait avec le Napoli, mais il a quand même créé beaucoup de dangers, et offensivement, pour le coup, tout passe par lui.
Ouais, c'est vrai, et c'est... je vais lancer une de mes théories, c'est que j'ai l'impression que les ailiers sont souvent des joueurs de foot moyens, parce qu'on leur demande toujours de faire des choses, un peu toujours la même chose. Et en fait, c'est difficile de se rendre compte quels sont les ailiers qui sont des vrais bons joueurs de foot. Et quand tu mets Mertens axial, tu dis ah oui, effectivement, il sait faire pas mal de choses. C'est un vrai bon joueur. Et il y en a d'autres. Si tu mettais Gezal en pointe, tu diras ah bah non. Et pour le coup, quand tu mets Insigne dans un rôle plus axial, tu te dis ah oui. Alors ok, il était très utile côté, mais c'était presque dommage de le cantonner à ça parce qu'il est capable de remiser dans les petits espaces. Il est capable de prendre la profondeur. Il est capable de lire le jeu de manière axiale où c'est un petit peu plus différent d'être sur le côté et de juste avoir à gérer son positionnement par rapport à la ligne de touche. J'ai trouvé intéressant, alors c'est faut faire attention à pas non plus tomber dans une Insigne dépendance parce que du coup ça serait je sais pas si Insigne serait le joueur qui serait capable de faire toutes les différences offensives, faut pas non plus que ça bouffe Immobilier ou ton autre numéro 9 qui à mon avis ne sera pas Lasagna, mais visiblement c'est lui pour l'instant l'alternative en pointe. Mais faut que si dézone et s'il soit vraiment dans une position axiale, faut pas que les deux se marchent sur les pieds, faut qu'Immobilier soit capable de prendre le côté si besoin, partir en profondeur ou autre. Mais Insigne intéressant, et je pense surtout qu'il a une vraie marge de progression parce que son adaptation a beau avoir été rapide, c'est quand même quelque chose d'assez neuf. Et je pense que si on en reparle dans 6 mois, on se rendra compte qu'Insigne peut être un attaquant complet, et que ce qu'il monte par bribes ou par séquence assez longue sur des matchs face à des adversaires comme le Portugal, qui en plus ont une bonne équipe et sont en confiance, ça donne quand même matière à être assez optimiste pour la suite.
L'es-tu devenu, du coup, Guillaume, optimiste, en tout cas un peu plus optimiste pour l'avenir de la sélection?
Oui, je le suis plus parce que je vois quand même des progrès, je vois une trame de jeu, je commence à voir quand même ce que va faire Mancini, ce qu'on voyait pas au début. Alors certes, il a fallu du temps, il a testé beaucoup de joueurs, ce sera 59 au total, il y a eu beaucoup de tests, il y a eu beaucoup de schémas, il y a eu beaucoup de choses. C'est vrai que là, on commence quand même à avoir un semblant de quelque chose. Après voilà, le manque du numéro 9 m'inquiète quand même, pas te mentir. Quand j'ai vu Kevin Lasagne rentrer, j'ai beaucoup pensé à toi, mais pas te mentir. Mais c'est vrai que bon, après oui, je suis plus optimiste. Je suis content de ce que j'ai vu en première mi-temps. La deuxième un peu moins parce que voilà, physiquement ça a été moins bien. Mais c'est vrai que la première mi-temps, j'ai vu des belles actions, j'ai vu des triangles, Jorginho, Insigne, Verratti très intéressant, hein, la capacité de sortir des petits espaces. J'ai vu des belles actions qu'on avait plus depuis longtemps. Alors voilà, paradoxalement, avant l'Italie jouait mal et avait un peu de cynisme. Là maintenant, c'est un peu le contraire, on joue bien, mais c'est vrai qu'on marque pas. Et c'est vrai que le problème du numéro 9, ce qui est Immobilier, a quand même pas été bon, une nouvelle fois, donc c'est aussi un problème. Et c'est vrai que derrière Immobilier, t'as Belotti, t'as Balotelli, t'as Lasagna, t'as quand même plusieurs joueurs qui sont quand même du même niveau, donc c'est un peu compliqué, il n'y en a pas un qui sort du lot. T'as Coutelon, il y a 1000 ans, mais c'est vrai qu'il est encore très jeune. Donc c'est vrai que ce problème du numéro 9 m'inquiète, mais en soi...
Mais il sera intéressant de le voir, je pense, Coutrone. Hein.
Oui, je pense aussi, mais dans le sens où il est encore jeune, tu peux pas te permettre de tout reposer sur un gamin de son âge. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, la mayonnaise commence à prendre. Le jeu que j'ai fait en mi-temps m'a rassuré. Donc oui, je suis plus optimiste pour l'avenir, si c'est ce que tu voulais entendre.
Ça me rassure. On va passer donc au pêle-mêle footballistique, le dolce de la fin. Alors, Christophe, tu m'as fait un petit laïus sur le Torino, en te demandant si c'était pas une équipe avec un potentiel mal exploité.
Oui. Alors, pourquoi j'ai dit ça, je vais pas forcément développer pendant une demi-heure, mais je trouve qu'il y a des équipes comme ça qui ont des joueurs qui individuellement sont capables de faire des différences sans avoir forcément besoin de soutien. Et quelqu'un comme Iago Falque, par exemple, tout seul, il peut fixer son défenseur, mettre une frappe enroulée. Belotti est capable de mettre au fond tous les ballons qui traînent. Et je suis assez déçu de ce que je vois pour l'instant du Torino depuis le début de saison. Ça fait partie pour moi des équipes inverses à Sassuolo. Je pense que en te contentant entre guillemets d'avoir une base solide et d'avoir un système de jeu qui soit pas forcément révolutionnaire, mais par exemple, enfin si tu fais un 4-2-3-1 comme le LOSC par exemple, avec des ailiers qui courent et qui repiquent, je pense que tu pourrais marquer plus de buts que tu ne le fais actuellement, et que t'aurais pas forcément besoin de t'exposer et d'avoir des ta défense à 3 qui responsabilise beaucoup tes deux latéraux. Voilà. Après, c'est peut-être, peut-être que j'ai pas vu, les bons matchs, c'est possible aussi, mais je trouve pas que Mazzarri et cet effectif-là du Torino, pour l'instant, ça soit ultra compatible, même si les résultats mettent cette équipe en milieu de tableau et qu'il y a rien non plus d'alarmant.
Il y a rien d'alarmant, mais c'est vrai que l'ambition était tout autre en début de saison du Torino, puisque le président a mis cette année, je crois, une quarantaine de millions d'euros avec un objectif affirmé d'arriver en Europa League. En gros, ce qu'a réussi à faire l'Atalanta sur les deux dernières saisons, bah pourquoi le Torino n'en serait pas capable au final? C'est un club d'envergure à peu près similaire, avec une qualité d'effectif au final à peu près similaire, parce que quand on regarde ce Torino-là, on avait parlé, Guillaume, dès la première journée, mais un joueur comme Soriano, qui est revenu cet été en Italie et qui joue maintenant au Torino, moi je trouve que c'est un super joueur qui est assez mal utilisé pour le coup par Mazzarri, mais parce qu'il répond peut-être pas non plus aux standards vraiment de Mazzarri en termes de volume de course, de dépenses physiques, etc. Un joueur comme Iago Falque, voilà, c'est vrai que c'est un super joueur, et même si ça s'était pas bien passé forcément à la Roma, il a eu du mal à faire ce passage grand club. Bah, au final,
Depuis qu'il est revenu, c'est très bon. Hein, ouais, Torino.
Sa qualité technique est quand même vraiment intéressante, et c'est vraiment le dépositaire du jeu du Torino.
Tu as Zaza aussi, n'oublie pas.
Oui, alors là, c'est moins. Non, mais c'est vrai qu'en plus, il a beaucoup tâtonné aussi, parce qu'il a essayé des Zaza Belotti en attaque qui étaient assez affreux. Voilà, une complémentarité qui n'existe pas, et un jeu totalement stéréotypé avec les trois derrière qui balançaient des ballons sur Zaza en sautant totalement le milieu de terrain. Tu parlais des joueurs de côté, c'est vrai que là ça pêche un peu, parce que j'ai du mal à voir beaucoup de qualité chez Berenguer par exemple, qui est pourtant arrivé avec l'étiquette de grand espoir, oui, et ouais. Je trouve que ça traîne un peu. Voilà, je trouve qu'il montre quand même pas grand chose depuis qu'il est arrivé au Torino. Et puis de l'autre côté, le dénommé Aina, là, je crois, qui est arrivé cet été en prêt, je sais plus d'où. Voilà, c'est loin d'être impressionnant. Derrière, t'as un joueur comme Moretti, voilà, que j'aime beaucoup, mais dont la carrière est quand même faite et qui a beaucoup de mal sur la vivacité, à gérer la vivacité et la profondeur de la défense. Donc voilà, je trouve qu'il y a encore pas mal de problèmes. L'idée n'est finalement pas forcément celle qu'on imaginait au départ, Guillaume, d'une équipe qui attendrait et qui lancerait des contres assez rapidement avec une verticalisation rapide. Là, je regardais un peu les stats de leur match. C'est une équipe qui a beaucoup de ballons, avec pas mal de matchs où ils sont à plus de 60% de possession, mais au final, pour pas en faire grand chose.
Bah, ouais, ils savent pas trop quoi en faire. Et... c'est surtout aussi une équipe qui manque de régularité, parce qu'on se rappelle la victoire, la belle victoire qu'ils avaient obtenue à la Gênes contre la Samp, qui était assez nette et assez puissante, dans le sens où, voilà, c'était quand même, la Samp d'Orée est aussi un candidat à l'Europe, donc le Torino qui va gagner là-bas, c'était important, et bah, une semaine après, ils partent contre Parme, donc à domicile. Donc c'est vrai que c'est compliqué, ce manque de régularité, comme tu l'as dit aussi, le secteur défensif, voilà, Moretti, moi aussi, j'aime beaucoup Moretti, mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, sa carrière derrière lui, Nkoulou, est un peu moins bien que l'année dernière quand même, parce que l'année dernière, on se rappelle qu'il avait quand même surperformé pendant plusieurs matchs. C'est vrai que cette année, il est un peu moins bien. Voilà, Izzo, moi, j'ai jamais été un grand fan.
Non.
Izzo, je sais pas ce que tu en penses.
Non, mais défensivement, c'est clair que l'équipe n'est pas au niveau de ce qu'elle peut proposer en termes de, on va dire, de profil et de qualité individuelle qui ont parfois du mal à s'exprimer aujourd'hui, mais au milieu de terrain et en attaque, c'est clair que... Mais tu vois, tu parlais du match de la Samp, c'est vraiment le match où là, ils étaient en configuration un peu de ce qu'a toujours fait Mazzarri à Naples, etc. Ouais. Où là, ils étaient plus en position basse pour exploser très vite devant. Et là, pour ce match-là, par exemple, c'est clair qu'il n'avait pas mis Zaza et Belotti devant. C'est que Belotti était tout seul, mais qu'il y avait des milieux comme Rincon, comme Baselli, comme Meite, qui étaient à la fois capables d'apporter du muscle, mais aussi un volume de course très important. Donc est-ce que c'est pas la marche à suivre de vraiment se fixer sur un système et ce système-là qui marche mieux plutôt que de dire on a la possession mais pourquoi en faire, on sait pas trop ce qu'ils veulent en faire derrière.
Après quand tu reçois Parme, tu vois, quand tu es à domicile contre Parme, tu peux pas aussi te permettre de jouer que en contre. Tu dois aussi te permettre de faire le jeu et donc avoir aussi un plan B. Ton plan A, jouer à l'extérieur, pourquoi pas jouer en contre et comme ils l'ont fait à Gênes, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'était le jeu parfait, même pour Iago Falque, qui adore les grands espaces et la profondeur. Après, quand tu reçois Parme, tu dois aussi être capable de faire quelque chose du ballon et de proposer plus que des simples comptes. Donc voilà, c'est aussi intéressant. C'est aussi intéressant que Mazzarri trouve plusieurs plans de jeu. Et en soi, c'est vrai qu'aussi Zaza, c'était quand même un investissement cet été, parce qu'ils étaient quand même venus avec la Samp pour l'avoir. Et pour le moment, on l'a quand même pas vu beaucoup, à part un but contre le Chievo, je crois, à Vérone. Et ça aussi, c'est vrai que ça peut aussi poser des questions, parce que c'était quand même un joueur qui était attendu. Et pour le moment, bon, bah, il n'arrive pas trop à l'associer avec Belotti, donc ça aussi, c'est une question qui devra être réglée.
Alors, comme le temps passe, je te propose de passer à la déclaration de Sarri sur ses relations avec De Laurentiis, qu'on savait conflictuel, c'était même proche de l'insulte parfois à travers des médias différents. Tu peux nous rappeler ce qui...
Oui. Bah, il a essayé de calmer le jeu aujourd'hui dans une longue interview de la Gazzetta où la question c'était: est-ce que vous avez quelque chose à dire à Aurelio De Laurentiis, donc son ancien président à Naples? Et lui, il a répondu: non, je n'ai rien à dire. Donc là, on aurait pu dire: mince, ça commence mal. Et après, voilà, il a dit: je vais tenir à le remercier. Il m'a donné beaucoup de satisfaction personnelle en me donnant la chance d'entraîner Napoli, mon équipe de cœur et de mes origines. Ce fut une magnifique aventure qui ne peut pas être effacée par un départ de cette sorte. Donc voilà, il a essayé de calmer le jeu. Moi qui suis un grand romantique, je suis content. Parce que voilà, j'aime pas les ruptures mal après 3 ans où quand même on s'était quand même régalé malgré le fait qu'il n'y a pas eu de titre. Mais c'est vrai que voilà, il y a eu des problèmes, on a parlé tout à l'heure le manque de profondeur de banc, le fait que les remplaçants jouent pas, le fait de plein de choses, il y a eu plein de problèmes, mais c'est vrai que c'était, comme tu l'as dit, c'était quand même limite de l'insulte ces derniers temps. Donc c'est bien aussi que il calme un peu le jeu, un peu, parce que bon, c'est pas non plus une déclaration d'amour, hein. Mais c'est vrai qu'il a essayé de calmer un peu le jeu, il tient encore au Napoli, il l'a dit il y a pas longtemps, Sarri. Donc c'est vrai que dans l'interview même qu'il a donné aujourd'hui à la Gazzetta, je l'ai lu. Et voilà, on sent qu'il y a toujours de l'amour pour le club le club qu'il aime, le club qu'il supporte. Donc voilà, même si De Laurentiis sera jamais son meilleur ami, moi je suis content qu'aujourd'hui, voilà, il y ait un premier pas. Je suis pas sûr que De Laurentiis le fasse aussi, mais je suis au moins content que Sarri calme un tout petit peu le jeu avec De Laurentiis.
Christophe, vu que dans le podcast Vue du Banc, vous regardez un peu tous les championnats et notamment dans le top 5 européen, essentiellement dans le top 5 européen, est-ce que le Chelsea de Sarri commence à ressembler sur certains aspects à ce qu'il avait mis en place à Naples?
Il ressemble. Là où il y a une grosse différence, c'est que le Chelsea de Sarri affronte plus qu'en Italie vraiment des blocs très bas. C'est-à-dire que tout le monde refuse de jouer, sauf si c'est Arsenal ou autre. Mais les 14 non-membres du top 6 ne font qu'attendre. Et en fait, la possession et la création de Sarri, finalement, c'est plus presque un moyen de se protéger, parce que du coup, t'as la balle à peu près tout le temps et tu peux être bien positionné et contrôler les transitions adverses. Mais il y a encore une difficulté à faire des différences par la passe. Parce que quand Chelsea fait tourner la balle derrière, personne ne va venir finir par presser. Donc tu pourras pas casser de ligne comme ça en essayant d'attirer l'adversaire au pressing, parce que les équipes savent très bien que c'est ce qu'attend Chelsea. Donc très rapidement, David Luiz ou Rudiger vont essayer de casser une ligne par la passe, mais au niveau du milieu de terrain, pour toucher Morata dans les 30 mètres adverses, il va quasiment rien se passer devant la surface et dans la moitié de terrain de Chelsea. Donc les matchs de Chelsea, pour le coup, sont assez lancinants, un peu chiants, mais c'est aussi la faute de l'adversaire. Là où tu peux imputer ça à Chelsea, c'est que ça manque encore de qualité dans la passe et de capacité à créer des systèmes qui vont déséquilibrer l'adversaire. Ça peut ressembler un peu à la deuxième mi-temps de l'Italie face au Portugal, quand tu as la possession, mais tu n'es pas vraiment en danger, mais tu sais pas trop quoi en faire. Et ça peut assez vite devenir on donne la balle à Eden Hazard qui va finir par faire la différence. Donc c'est-à-dire qu'on voit véritablement la patte Sarri, mais on voit pas beaucoup de différence. Un, parce que les adversaires ne jouent pas le jeu, et deuxièmement parce que tu n'arrives pas à faire ce que fait Manchester City, à savoir avoir 70% de possession mais créer pas mal de décalage partout sur le terrain.
D'accord. Bon, pour conclure ce 16e épisode, je vous ai demandé à tous les deux de me donner 3 joueurs qui vous ont marqué positivement depuis le début de la saison. Et vu qu'on est déjà à 1h20 de podcast, on va essayer de faire 30 secondes par joueur. Christophe, on commence par toi. Et premier joueur cité, Kwame.
Oui. Alors, j'ai hésité avec Piatek, ou Piontek, enfin voilà, la prononciation polonaise, mais je trouve qu'on a déjà beaucoup parlé de lui, à juste n'a pas forcément mis en valeur son compère offensif au Genoa. Alors le Genoa reste une équipe plutôt en difficulté, heureusement qu'ils ont ces deux joueurs-là pour faire les différences. Mais oui, Kwame qui a pas forcément une grande dégaine quand il court, c'est un peu bizarre. Il a pas tellement d'allure, mais je ne le connaissais absolument pas. Il a que 20 ans et il peut à la fois donner des bons ballons. Là, il a donné plusieurs passes décisives à Piontek, mais il est aussi capable de marquer. Il fait beaucoup d'efforts, il court à la pressing pour se démarquer, etc. Alors, je ne sais pas si ça va durer, mais pour le coup, maintenant que son compère est un peu moins efficace, on voit un peu plus le travail de son acolyte et tout ce qui était un peu plus dans l'ombre quand Piatek convertissait toutes les occasions.
Alors Guillaume, ton premier joueur, Cancelo de la Juve.
Ouais, 30 secondes, c'est ça?
Ouais.
Bah, 30 secondes, que dire de Cancelo? C'est vrai que, alors on l'avait déjà vu l'année dernière avec l'Inter, il avait fait une très bonne saison, mais là j'ai l'impression vraiment qu'il passe un cap avec la Juve, je trouve meilleur. Voilà, en début de saison, tu te rappelles, on avait parlé dans les podcasts, c'est vrai que défensivement, on attendait un peu plus. Là j'ai l'impression qu'il progresse, j'ai l'impression qu'avec Allegri, la mayonnaise prend. Ça devient un joueur total, un joueur complet. Sur son couloir droit, il est vraiment très, très, très fort. Il apporte autant offensivement que défensivement. Il y a encore des progrès à faire sur certaines séquences. Mais c'est vrai que c'est un joueur, c'est l'une des belles recrues de la Juve cet été. Et on peut comprendre pourquoi ils ont investi 40 millions dessus, parce que c'est vraiment un joueur, pour le moment, indispensable à l'effectif d'Allegri.
Alors pour ma part, le premier joueur, c'est Alan. Ça paraît assez évident après ce qu'on a vu de lui, notamment en Ligue des Champions. Mais voilà, c'est un joueur qui détruit un milieu de terrain adverse à lui tout seul, qui est excellent dans sa capacité à aller chercher les ballons dans les pieds des adversaires, à gagner ses duels, à poser un rythme d'enfer, à devoir faire accélérer les transitions chez les milieux de terrain adverses, parce que ils sautent dans leurs pieds, et donc il faut avoir une vitesse d'exécution plus importante, et donc du déchet technique aussi provoqué chez l'adversaire. Voilà, c'est un formidable aboyeur, un joueur voilà, moi qui me rappelle Nainggolan. C'est des types de joueurs que j'aime beaucoup et qui sont des profils aujourd'hui très très rares, mais quand on en a un dans son effectif, c'est évidemment une plus-value très importante. À la fois dans quand on a le ballon, puisque c'est un joueur qui est aussi très bon dans l'utilisation du ballon, mais surtout quand on ne l'a pas. Christophe, ton deuxième joueur, si je dis pas de bêtises, c'est Souso.
Oui, qui est dont on a un petit peu parlé tout à l'heure et dont qui est forcément un fil rouge de ces podcasts, puisqu'à chaque fois qu'on parle de Milan, on est obligé de parler de Souso, qui est son point d'ancrage offensive, qui est pour moi l'un des meilleurs pieds d'Europe, l'un des meilleurs pieds gauches. Forcément, souvent l'occasion de le voir parce qu'il est tout le temps servi. Alors on le voit forcément sur le côté, mais même quand il est dans l'axe, on voit qu'il est capable de sortir du lot, de faire des bonnes passes. Que c'est pas juste, il va pas juste faire la spéciale Robben, quoi. Il peut aussi faire de très bons centres au second poteau. Quand il est recentré, il peut aussi trouver de jolies passes. Alors je sais pas quelle est sa marge de progression, et je sais pas s'il était dans une équipe plus forte, si moins du lot et du coup on s'intéresserait moins à lui, mais en tout cas quand on voit l'écart qu'il y a avec ses partenaires et les statistiques qu'il produit, parce que je crois qu'il a déjà 8 passes décisives, ce qui est quand même considérable, c'est difficile de pas être impressionné par ce joueur.
Alors Guillaume, on va passer à l'autre club milanais avec Brozovic.
Ouais, moi Brozovic, je l'ai mis dans mes 3 parce que il est depuis longtemps à l'Inter, donc c'est un joueur qu'on connaît évidemment, international croate, mais j'ai aimé comment il a pris en main l'Inter cette saison, j'ai aimé sa leadership, temps fort, temps faible. C'est un joueur qui ratisse beaucoup au milieu, qui est bon aussi quand il a le ballon, il impose le jeu, il le hit. Voilà, moi je suis content de voir au moins cette saison un Brozovic au haut niveau. Il avait connu, on l'a rappelé il n'y a pas longtemps, des périodes très compliquées avec l'Inter, il a été sifflé, il a mal réagi. Et c'est vrai que cette saison, on voit vraiment un Brozovic à la hauteur, et vraiment à la hauteur de ce qu'on lui demande. Les tifosi, voilà, maintenant, ont changé un peu leur fusil d'épaule. Donc, moi, je suis content de voir un Brozovic à la hauteur pour l'Inter, et j'espère qu'il va confirmer pour la suite de la saison.
Mon deuxième joueur, c'est donc Nicolò Barella. On en a un peu parlé avec la sélection. Troisième saison au haut niveau avec Cagliari, un joueur qui sait tout faire, et donc qui est hyper intéressant, très jeune, de grosses marges de de progression encore, une très belle frappe, une qualité pour jouer dos au but dans un milieu de terrain avancé, enfin un poste avancé du milieu de terrain. Face au jeu, il a aussi une très bonne lecture de jeu, très bonne qualité technique, capable d'orienter le jeu assez facilement, de faire jouer ses partenaires. Vraiment un milieu de terrain à suivre pour le futur de, alors déjà de Cagliari, pour la saison de Cagliari, pour le futur à quelques mois près, puisque ce sera un très gros enjeu lors du mercato estival 2019, et puis évidemment aussi pour la nationale. Christophe, l'indiscutable Cristiano Ronaldo, pour terminer de ton côté.
Oui, voilà, parce qu'on est obligé d'en parler, là, on a faute de temps, et puis parce qu'il y avait non plus pas un milliard de choses à dire, on n'a pas tellement, même pas du tout parlé de la Juve. Et Cristiano Ronaldo qui me surprend, alors pas dans ce qu'il fait, parce que c'est un peu toujours pareil avec les côtés positifs et les côtés négatifs, mais disons, il a pas forcément changé sa manière de jouer, mais dans son attitude, je trouve qu'il y a vraiment un changement par rapport à ces dernières années madrilènes, où il y avait une espèce d'exaspération envers ses partenaires, de suffisance parfois, enfin, il renvoyait pas forcément toujours quelque chose de très positif, parce qu'il était peut-être très bien dans le vestiaire, mais en tout cas quand on le voyait en télévision, on n'était pas toujours convaincu. Et là, je trouve qu'il y a une espèce de joie de vivre qui émane de lui, et même quand il prend 15 frappes de suite à 20 mètres, ses partenaires lui en veulent pas, et lui ensuite est content de faire une passe décisive. Et je trouve ça, je suis assez séduit par ce qu'il fait à la Juve, parce que je trouve que ça apporte à la fois une variété dans les possibilités offensive de la Juve, qui a maintenant encore une autre arme et un autre moyen de percer des défenses qui attendraient une création de jeu. Mais même lui, je trouve qu'il est en train de, peut-être pas de se réinventer, mais en tout cas d'avoir une certaine fraîcheur, et on sent que ce transfert lui a fait du bien.
Guillaume, Lorenzo Insigne.
Ouais, Christophe parlait de réinvention. Pour le coup, Insigne s'est réinventé en numéro 9. Il n'y aurait pas beaucoup d'entraîneurs qui l'auraient mis là. Ancelotti l'a fait. Ça a marché, c'est l'une des clés de. C'est bon, c'est le début de saison du Napoli. Voilà, moi j'aime la façon dont il s'est adapté. Il y aurait beaucoup de joueurs qui auraient aussi rechigné, parce que c'est vrai qu'on avait l'habitude de le voir sur son côté gauche, voilà, repiquer. Ça devenait aussi un peu stéréotypé. Et voilà, la chimie a pris, il est numéro 9. Voilà, à sa façon, mais il a déjà marqué beaucoup de buts cette saison. Donc voilà, moi je trouve que c'est l'une des clés du Napoli d'Ancelotti, forcément. Et voilà, moi je suis content de le voir dans un nouveau poste, et pour le Napoli et pour l'Italie. Donc voilà, je tenais à souligner le début de saison d'Insigne.
Et puis pour conclure, j'ai donc mis Lorenzo Pellegrini. Je l'évoquais assez rapidement dans le débat sur la Nationale. Un joueur qui s'est lui aussi réinventé, c'est un peu le mot d'ordre, puisque c'était un relayeur sous Di Francesco à Sassuolo et lors de la saison passée à la Roma, et là il se réinvente dans un poste de numéro 10. Alors il rappelle un peu certaines aptitudes de Perrotta, qui joue en faux numéro 10 quand Spalletti était à la Roma dans les années 2006 à 2009-2010 par là. C'est un joueur qui a un gros volume de course, qui sait très bien lire le jeu et les situations, qui sait très bien se placer aussi par rapport au ballon, et s'il est à l'opposé ou se placer, etc. Qui cette année, plus il est proche du but, plus il marque, alors qu'il avait marqué, je crois, une dizaine de buts avec Sassuolo dans le milieu à 3 de Di Francesco. Là, il continue sur ses bonnes aptitudes offensives. Il lui manque encore de la constance, il lui manque de la régularité, il lui manque parfois de faire le bon choix et de pas trop ralentir le jeu en jouant derrière. Plus il jouera vers l'avant, ce joueur, plus il sera intéressant pour son club et aussi peut-être pour la sélection nationale. Voilà qui boucle ce 16e épisode de Calcio et Pépé. On va rappeler rapidement le programme de cette 13e journée de Serie A ce week-end. Samedi, on commencera par Udinese Roma à 15h, Juventus Spal à 18h, Inter Frosinone à 20h30. Semaine de Ligue des Champions oblige, hein, donc les gros clubs jouent dès le samedi. Dimanche, on a donc Parme Sassuolo à 12h30. Impeccable pour le marché chinois. On ne dit pas qu'il y a beaucoup de Chinois qui vont voir ce match. Ensuite, nous avons donc Bologne Fiorentina, Empoli Atalanta et Naples Chievo à 15h. Puis le choc, Lazio Milan à 18h. Christophe, est-ce qu'on te demande un pronostic sur ce match ?
Non, il ne faut pas me demander de pronostic. Je suis très mauvais dans l'exercice.
Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, Vu du Bon fait une rubrique pronostic à la fin de chaque podcast. Et avec Raphaël Cosmidis et Florent, Florent Tognutti, je vais y arriver décidément. Vous faites chacun deux pronostics, c'est ça, il me semble, sur les différents matchs du week-end. Et c'est vrai qu'en ce moment, bon, c'est pas la folie au niveau des pronostics. Guillaume, ton pronostic sur ce match, Lazio Milan?
Non plus.
Ok, ça marche. Merci beaucoup pour votre aide.
Pas de souci. On
conclura dimanche avec Genoa-Sampdoria, le derby de Gênes, le derby de la lanterne. Et puis lundi, un formidable Cagliari-Torino pour je ne sais quel marché, mais à mon avis, il n'y aura pas grand monde devant la télévision. On te remercie, Christophe, pour ta participation à ce podcast.
Merci de l'invitation, c'était un plaisir.
On rappelle qu'on peut te retrouver sur les cahiers du foot chaque semaine, et évidemment sur le podcast Vue du banc, entre autres. Merci Guillaume, on se retrouve donc la semaine prochaine pour débriefer cette journée de Serie A.
Merci à toi et merci à Christophe pour son œil aiguisé. Et voilà, moi qui suis un fin amateur de tactique, voilà, j'ai pas votre œil de tacticien, mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment un métier. Donc voilà, merci à Christophe et merci pour sa disponibilité à ce podcast.
Merci à tous et on se dit donc à la semaine prochaine. Salut.
Salut. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.